Je vais essayer de vous parler de Paul Claudel et l'écriture sainte. Mon propos est parti d'une petite phrase de Claudel. Vous entendez là, ça va? Le micro est assez près. Bien. En 1925, Frédéric Lefebvre interroge Claudel, comme un certain nombre d'autres hommes de lettres, et il lui demande en particulier quels sont ses livres de chevet. Et Claudel répond d'une façon un petit peu paradoxale: « Je ne lis guère d'une manière constante que la Bible. » Et il semble que toute son œuvre, effectivement, en fasse foi. Dès ses premiers écrits, la fréquence des citations bibliques est extrêmement importante. Par ailleurs, à partir de 1927, donc 2 ans après la question de Frédéric Lefebvre, Claudel va quasiment abandonner toute production dramatique et poétique pour se livrer à l'exégèse biblique, encore que l'expression soit un petit peu impropre en ce qui le concerne. Je vais vous lire immédiatement un passage. J'aurai pas mal de citations parce que je crois qu'il faut citer Claudel. Ses textes sont très beaux et ils sont plus parlants finalement que tous les commentaires que l'on peut en faire, vous indique justement ce passage d'une production à l'autre. Alors, pour résumer les circonstances, c'est un éditeur qui éditait l'Apocalypse de Saint-Jean et qui lui a demandé de faire une préface. Et la préface est devenue un énorme livre qui s'intitule « Au milieu des vitraux de l'Apocalypse ». Donc, je cite... L'indiscret solliciteur évincé, l'indiscret solliciteur c'est l'éditeur en question, il n'en était pas de même de sa proposition, qui nuit et jour ne me laissait pas de repos. J'avais 60 ans, j'étais vacant, j'en avais fini pour toujours avec les otages et les souliers de satin. Je savais que Tête d'Or en avait fini pour toujours de régler leur compte aux Isées et aux Prouèses. Cet apocalypse qu'une curieuse insistance intérieure désignait à mon intérêt, j'avais le temps, pourquoi pas, ne pas y mettre le nez. C'était l'affaire de quelques jours, de quelques semaines au plus. J'avais 60 ans et je dis, à ce moment, j'en ai maintenant plus de 83, et il n'est pas vraisemblable qu'autre chose que la tombe vienne mettre fin à l'investigation téméraire et passionnée où je me suis trouvée engagée par un enchaînement progressif de questions et d'attraits qu'il n'était pas en mon pouvoir d'éluder. Donc, tout un pan de l'œuvre de Claudel, fort peu connu aujourd'hui, qui occupe 10 volumes de cette taille et qui reste à découvrir du public. L'expression de commentaires et exégèses qui est utilisée en tête de l'édition Gallimard n'est pas de Claudel, elle est des commentateurs et elle est assez inexacte. Claudel aurait de loin préféré que l'on parlât de poèmes bibliques. Et d'ailleurs, la réédition se fera sous ce titre. Alors, pour vous donner un aperçu, un échantillonnage, il y a 3 commentaires de l'Apocalypse, 1 du Cantique des Cantiques, 2 d'Isaïe, 1 de Job, 1 d'Esther, 1 de Tobie, plus un certain nombre de textes de méditation qui sont fort beaux. Un poète regarde la croix, « Seigneur, apprenez-nous à prier ». J'aime la Bible, qui est celui que je serai amené à citer le plus souvent ce soir, et également de très belles méditations mariales, l'épée et le miroir, la rose et le rosaire, qui devaient au départ faire partie d'un grand ensemble que Claudel aurait intitulé Assumpta est Maria, qui aurait été un grand poème marial, mais qu'il n'a jamais terminé, qu'il n'a jamais réorganisé dans son ensemble. Quand il meurt en 1955, il travaille à son second commentaire d'Isaïe, et c'est donc dans cette méditation biblique qu'il a quitté cette terre. Il ne faut pas voir là de rupture, mais au contraire une continuité. C'est bien comme cela que Claudel nous enseigne à lire cette partie de son œuvre, qui est une sorte de face secrète de son œuvre dramatique, en même temps qu'elle en est le révélateur. Face secrète de l'œuvre, mais je dirais aussi du personnage, dans la mesure où, à travers ce poème biblique, c'est l'intimité la plus profonde d'un homme et d'un poète qui nous apparaît. Un homme qui vit son catholicisme au jour le jour, et qui, de ce point de vue, diffère de l'homme public, de l'homme de théâtre, de celui que l'on connaît habituellement. Ce travail sur la Bible, Claudel y attachait une grande importance, à tel point que lui-même a fait plusieurs conférences, et je salue ici le père Folliet, qui, je crois, a assisté à l'une de ces conférences. C'était celle du 10 février 1946 à l'Institut catholique, précisément sur l'Apocalypse. Et nous avons un texte à ce propos où Claudel dit comment il concevait ses commentaires. Ce texte est un petit peu long, mais je vous le lis quand même dans son intégralité parce que je le trouve tout à fait intéressant. Donc c'est à l'intérieur de cette conférence qu'il tient ses propos. « Je profite seulement de l'occasion qui m'est offerte de soulager mon cœur, de donner ouverture à des sentiments que j'ai été obligée de garder toute ma vie au fond de moi-même, réprimés et ensevelis. La solitude qui est l'épreuve de tant de prêtres, je ne sais si elle peut être plus grande que dans le monde, au milieu de gens avec qui on ne se sent pas grand-chose de commun. » Personne n'a mieux compris que moi la parole de saint Paul, qui est d'user du monde comme n'en usant pas, non point par vertu, mais par nécessité, par désagréable nécessité. Combien de fois le smoking ne m'a-t-il pas paru un cilice, et j'aurais préféré un rocher au milieu de l'océan Pacifique à cette place d'honneur à un dîner officiel où il m'est arrivé de dire mon chapelet sous la nappe entre deux femmes de sénateurs américains. À cette solitude qui m'accompagnait venait en effet s'ajouter celle de l'exil, celle d'une vie entièrement passée au milieu de gens dont je ne partageais ni la langue, ni les intérêts, ni la religion. Celle aussi d'un écrivain qui se livrait désespérément à son art, avec la certitude de n'être compris de personne, s'heurtant, comme il faisait, d'un côté comme de l'autre, à un double conformisme, à deux murailles également indifférentes et irréductibles. C'est alors que je ressentis le prix de cette mer aux quatre coins du monde, qui jadis m'avait donné le jour et qui ne me lâchait pas. De tous côtés, je trouvais une église catholique qui m'ouvrait les bras. Ce n'était plus comme autrefois les voûtes glorieuses de Notre-Dame de Paris, c'était quelques pauvres baraques d'un pays de mission, quelque humble asile de pauvres gens au bout d'une ruelle de Boston ou de Hambourg, dans son humilité consciente et attifée. Tout de même, c'était pour moi la maison d'or de la litanie que nos paroissiens traduisent par sanctuaire de la charité. C'était la porte du ciel, c'était l'arche d'alliance, au-dessus de laquelle brillait l'étoile du matin, cette étoile précisément que le prêtre allait me mettre dans la bouche. Donc, texte très révélateur d'une part de la personnalité de Claudel. Tout à fait intéressant par la manière dont il est écrit. Vous aurez remarqué à l'intérieur de ce texte, qui est une sorte de page de journal, à quel point Claudel fait un usage naturel de la référence biblique ou liturgique. User du monde comme n'en usant pas, premier épître aux Corinthiens, et ensuite ces expressions tirées des litanies, Domus Aurea, Janua Celi, Federis Arca, Stella Matutina. Il y a une sorte d'imprégnation naturelle de la citation, tantôt à l'état brut, tantôt au contraire magnifiée par l'usage liturgique. Et ceci est absolument systématique sous la plume de Claudel, il le fait d'une façon absolument naturelle. Bon, par ailleurs, ce texte est intéressant puisqu'il met l'accent justement sur cette solitude de l'homme, cette solitude qui est mal connue des critiques et que l'on a toujours masquée en fait quand on l'a présentée. Solitude propice à la méditation. Et solitude dont je dirais qu'elle est le reflet de la double vocation de Claudel, en prenant le mot de vocation, en le mettant entre guillemets. Et c'est justement cela qui sera mon propos, c'est cette double vocation, cette vocation ambiguë qui est d'une part une vocation sacerdotale ou monastique manquée ou refusée, mais dont il est toujours resté quelque chose, et d'autre part une vocation artistique, vocation du poète et vocation de l'amoureux de mots. Claudel écrivait à André Suarez le 5 août 1907, je cite, « J'ai cette idée burlesque que je ne finirai pas autrement que prêtre ». Idée burlesque sans doute, mais idée dans laquelle il y a aussi quelque chose de vrai, et toute l'œuvre de commentaires bibliques en témoigne. Donc le fil directeur de mon propos, ce sera qu'il y a deux faces inséparables de l'homme intérieur, l'homme profondément catholique et le poète. L'homme intérieur prie, prend au sérieux la doctrine et la discipline, le poète rêve sur les images. Et justement, les images vont faire le lien entre les deux. Ces images qu'il recueille dans la Bible, qu'il cite, sur lesquelles il médite, et à partir desquelles lui-même va écrire. Les images sont en quelque sorte le point d'appui de sa méditation biblique, et deviennent la source jaillissante de son écriture poétique. Donc, une sorte de lecture idiosyncrasique de l'écriture, qui est à la fois la lecture du catholique fervent, et la lecture du poète. Alors, je traiterai trois points. Tout d'abord, je traiterai de la Bible en tant que sublime livre d'images. C'est Claudel qui la désigne ainsi. Le motif de l'image sera toujours le fil directeur de mon propos. Ensuite, je verrai le miroir spirituel, le livre de la gloire et de la grâce. Et enfin, je verrai la Bible du poète théologien. Alors tout d'abord, le sublime livre d'images. Le mot d'image est d'emblée associé par Claudel à la lecture de la Bible. Il est un texte où il nous rappelle ses souvenirs d'enfance. Je vais ici faire une sorte d'historique ou d'historique biographique, si vous voulez, de sa lecture de l'Écriture sainte. Il est un texte bien intéressant qui est celui qui ouvre « J'aime la Bible », justement, où il nous raconte sa première expérience du livre saint. « La Bible est associée chez moi au premier éveil du cœur et de l'imagination. Dès ma plus petite enfance, quand j'apprenais à lire sur les bancs des chères sœurs de la doctrine chrétienne à Bar-le-Duc, avec quel intérêt je regardais ces grands cartons qu'elles nous mettaient entre les mains et où était représentée la vie du Seigneur. Et plus tard, au lycée, l'histoire sainte fut les délices de ma classe de 12e. Le sacrifice d'Abraham, le déluge, les fiançailles de Rebecca, Jacob, Moïse, Tobie, le châtiment d'Héliodore, la Samaritaine, autant d'images magnifiques dont je ne puis dire qu'une chose, c'est qu'elles comblaient ma sensibilité. Quelle déchéance plus tard, quand il me fallut en venir aux Grecs, aux Romains et à leurs successeurs. petit clin d'œil à Veuillot. Enfin, donc, Claudel salue ici les positions. Bon, peut-être qu'il n'aurait pas tenu cette position jusqu'au bout, mais en tout cas, ça marque bien où va sa préférence et où va sa sensibilité profonde. Deuxième étape, c'est l'étape plus connue, c'est la fameuse étape de la conversion à Notre-Dame en 1886. Et je continue donc le même texte. Et plus tard, au soir de cette inoubliable journée de Noël 1886, comment ne pas voir une intervention de la Providence dans cette Bible, don d'une amie protestante à ma sœur Camille, qui se trouvait là, sur ma table. Bon, il se trouve effectivement que c'est la Bible d'Osterwald, qui était une Bible fort lue dans les milieux protestants à la fin du XIXe siècle, que Claudel a trouvée ce soir-là. Alors, je vais citer d'autres textes maintenant pour vous montrer quel est l'effet qu'a produit ce texte biblique sur Claudel. Alors, notamment le texte célèbre intitulé « Ma conversion » qui est paru en 1913. Je cite « J'ai entendu l'accent de cette voix si douce et si inflexible qui n'a cessé de retentir dans mon cœur. » Donc, message intime, tonalité augustinienne. La Bible est là comme une voix, quelque chose de personnifié qui l'accompagnera ensuite dans toute sa vie et toute sa carrière. Je continue de citer « Je ne connaissais que par Renan l'histoire de Jésus » Et sur la foi de cet imposteur, j'ignorais même qu'il se fût jamais dit le Fils de Dieu. Chaque mot, chaque ligne démentait avec une simplicité majestueuse les impudentes affirmations de l'apostat et me dessillait les yeux. Donc là encore, le cœur de la Bible apparaît, le cœur de la Bible tel que Claudel la lit, c'est bien sûr un message christique et christocentrique, et un message christique et christocentrique qui se dit avec un style très particulier, cette simplicité majestueuse que Claudel essaiera d'imiter. J'en reviens maintenant au soir de Noël 1886, cette fameuse Bible d'Osterwald qui l'ouvre un petit peu par hasard. Et là encore, Claudel a toujours eu le sentiment qu'il avait reçu ce soir-là une sorte de preuve par les images. En effet, les deux textes du soir de la conversion sont deux textes tout à fait symptomatiques, puisqu'il s'agit du récit des pèlerins d'Emmaüs, d'une part, et d'autre part, de la proposopopée de la sagesse au livre 8 des Proverbes. Alors je vous lis le texte où il le mentionne. « Je m'ouvris, donc cette Bible d'Osterwald, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et ce fut à deux endroits. Le premier était ce récit d'Emmaüs dans Saint-Luc, quand le Seigneur, au rebours de la nuit qui monte, ouvre à ses deux compagnons palpitants les secrets de l'ancien document. Et le second, ce fut ce sublime chapitre 8 du livre des Proverbes qui sert d'épître à la messe de l'Immaculée Conception. » Ah, je ne fus pas long à reconnaître dans cette radieuse figure qu'elle évoque les traits de la Mère de Dieu, en même temps qu'inséparables ceux de l'Église et de la sagesse créée. Pas une figure de femme dans mes drames postérieurs qui n'ait gardé la trace de mon éblouissement. » Donc, texte extrêmement important. Ces deux textes sont absolument fondamentaux. Ça vous explique pourquoi j'ai intitulé ma deuxième partie le livre de la gloire et de la grâce. La gloire, c'est le Christ qui se révèle aux disciples d'Emmaüs. La grâce, c'est la Vierge de l'Immaculée Conception. D'une part, principe de lecture allégorique qui se dessine, il faudra chercher le Christ à travers toute l'Écriture sainte, et en particulier l'ancien document, ce que Claudel appelle l'ancien document. D'autre part, cette image de la Vierge qui se superpose à celle de la sagesse et de l'Église, conformément d'ailleurs à la liturgie de l'Immaculée Conception, et qui sera une véritable source de création littéraire. Ceci nous prouve le sens très aigu que Claudel a des mystères de l'incarnation d'une part, du mystère de l'incarnation d'une part, sa piété mariale très profonde d'autre part, et tout ceci est absolument inséparable de son imagination créatrice et symbolique. Il y a là deux fils qu'il est absolument impossible de dissocier l'un de l'autre. Alors, question pratique que l'on peut se poser maintenant, quelle Bible, cette fois-ci au sens concret du terme, quel livre Claudel avait-il entre les mains? Cette fameuse Bible d'Osterwald n'a pas été conservée, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Ensuite, est-ce qu'il avait une Bible qui lui était attachée? Il semble que non. En fait, dès le début de son journal, qui commence en 1904, Claudel cite la Bible en latin. Il cite beaucoup les prophètes à cette époque-là, Ézéchiel, Isaïe, Osée. Et nous avons donc la preuve qu'il avait entre les mains une Vulgate, et que c'était systématiquement la Vulgate qu'il lisait. Par la suite, il s'en procurera plusieurs éditions. On sait qu'en février 1917, à Rio de Janeiro, il a acheté une Vulgate qui comportait le seul texte latin, et que par la suite, il a acquis la Bible du chanoine Fillon, une Bible en 8 volumes. On ne sait pas exactement quand il l'a acquise, Bible qui comporte le texte de la Vulgate, une traduction française et un commentaire. Alors Claudel se moque assez volontiers de ce qu'il appelle le caractère bavard et naïf des commentaires de l'abbé Fillon, mais il a cette remarque tout à fait intéressante, au moins elle est orthodoxe. Et elle lui sert donc de base pour ses commentaires bibliques. Alors pourquoi la Vulgate? Eh bien parce qu'il va de soi pour Claudel que c'est le dépôt de l'Église, c'est la Bible du Concile de Trente, c'est la Bible du Concile de Vatican, Et à de très nombreuses reprises, à l'intérieur de son œuvre, il va faire l'éloge de la Vulgate comme le texte par excellence de la tradition de l'Église. Je vais vous en donner quelques témoignages, et vous remarquerez tout de suite que cet éloge de la Vulgate est à la fois un éloge de l'orthodoxie du texte et un éloge de son esthétique. Et les deux, une fois de plus, sont absolument inséparables. La Vulgate, depuis le temps qu'elle est pour les saints et pour les pécheurs, une source inépuisable d'enseignement, d'enthousiasme, de consolation et d'illumination, quelque chose comme l'Eucharistie qui est la racine du paradis, le langage même de notre entretien avec Dieu. Je reviendrai un peu plus tard sur cette métaphore de l'Eucharistie qui est extrêmement importante. La raison esthétique est présente dans le même passage. Nous avons le bonheur de posséder dans la Vulgate une traduction des livres saints qui est un monument poétique que je ne suis pas loin de considérer personnellement comme le chef-d'œuvre de la langue latine. Ailleurs, il dira également, je cite, « Comprenons qu'il y a bien des choses que Dieu n'a voulu nous confier qu'à voix basse. À ce point de vue, rien ne remplacera jamais notre incomparable Vulgate. Tout est terne, tout est plat, tout est froid, tout est grossier à côté d'elle. On dirait Virgile traduit par un élève de quatrième. » Et enfin, conclusion, lisons donc la Vulgate et lisons-la comme elle doit être lue, à genoux. Donc vous voyez, encore, nous avons nos deux fils qui sont présents, hein, le fil esthétique, hein, c'est le plus beau texte latin qui soit, et en même temps c'est un texte qu'on lit à genoux. Ce n'est pas un texte qu'on se contente d'admirer pour des raisons profanes. Donc la piété, si vous voulez, l'obéissance à l'Église et en même temps l'intérêt esthétique seront constamment associés. Alors cette position personnelle va devenir dans le contexte ambiant très rapidement une position polémique. Claudel en effet a horreur de toute espèce de travail érudit sur l'écriture et son commentaire de la Bible, s'il est un commentaire savant, s'il est un commentaire plein de cette culture énorme que Claudel porte avec lui, ne se veut surtout pas un travail d'érudition. L'écriture, aux yeux de Claudel, est un monument sacré auquel on ne touche pas. Ce n'est pas un texte comme un autre. Aussi entre-t-il très rapidement en polémique avec, notamment, le père Lagrange et l'abbé Steinmann. Alors, le premier, le père Lagrange, donc le dominicain fondateur de l'école biblique de Jérusalem, et ensuite directeur de la revue biblique, que Claudel appelle le hideux dominicain, et qu'il appelle également, ailleurs dans son journal, l'exégète malfaiteur. Ceci dit, je voudrais revenir également sur ces propos qui peuvent peut-être paraître excessifs. Il y a toute une correspondance avec Mauriac à ce propos. Mauriac avait défendu le père Lagrange, qui lui-même avait défendu sa vie de Jésus. Pour vous montrer à quel point Claudel est un personnage complexe et attachant, Claudel n'hésite pas à dire la vérité. À mon avis, c'est un très bon point pour lui. C'est un homme qui avait le courage de ses opinions. Exemple. Dans son journal, en mai 1954, pardon, donc un peu moins d'un an avant sa mort, « Les dominicains du Faubourg Saint-Honoré m'ayant demandé des livres pour leur vente de charité, je leur envoie l'Évangile d'Isaïe et l'Apocalypse, donc deux ouvrages à lui, avec cette dédicace. J'offre volontiers au révérend père dominicain pour leur vente de charité ce livre que j'ai écrit dans l'exécration de l'exégèse moderniste. » Donc on peut difficilement être plus clair. Et par ailleurs... Alors, bien avant, mais ça n'a pas d'importance, en fait, dans le premier tome du journal, Claudel note un examen de conscience. Très souvent, son journal lui sert ainsi de carnet de notes spirituelles. Examen de conscience, de points, manque de charité, paroles moqueuses et blessantes. Entre parenthèses, le père Lagrange. Donc, vous voyez, les deux faces sont toujours là, en fait. Claudel est un homme sincère, et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut lui donner toute notre sympathie. Alors, passons maintenant à l'abbé Steinmann. Alors là, il y a toute une polémique également sur laquelle je ne m'étendrai pas dans La Vie intellectuelle, l'autre revue dominicaine, à la suite de la publication de l'Apologie du littéralisme de l'abbé Steinmann en 1949. Claudel répond, dit qu'il s'agit d'une nouvelle querelle de Bossuet et de Richard Simon, et là encore il manie l'invective avec un certain brio. Que faire par exemple de cette Isaïe déchiquetée que nous exhibe un sourire sur les lèvres Jacques l'Éventreur ? D'ailleurs, cette réponse n'a pas été publiée dans La Vie intellectuelle et Claudel en a été vexé. Alors, essayons de voir maintenant quelles sont les raisons profondes de ce rejet, parce qu'il y en a et que Claudel s'en explique. Refus donc de la manipulation du texte biblique, de toute méthode historico-critique. Alors d'abord, pour une raison de piété et de discipline. Toujours dans « J'aime la Bible », je cite « L'intérêt ». L'intérêt poignant qui m'a obligé de mettre la main à la plume est ailleurs que dans la polémique. Toucher à l'écriture pour un chrétien, c'est comme si on touchait à l'Eucharistie. Donc vous voyez qu'on retrouve cette métaphore eucharistique sur laquelle je reviendrai plus tard et qui est tout à fait essentielle. Donc, première raison, cette raison de piété, de discipline, de doctrine. La deuxième raison va à nouveau être la raison esthétique. Là encore, on va retrouver ces deux fils. Mais c'est une raison esthétique qui est fondée en théologie, parce que le beau est le reflet du vrai, que les deux sont indissociables l'un de l'autre. Donc je cite, c'est toujours à propos de l'abbé Steinmann. Et que pense M. Steinmann, affirmant avec sérénité que l'Ancien Testament n'a qu'un sens, le sens littéral, entendu au sens le plus bas et le plus grossièrement trivial possible? Que pense-t-il de cette énorme littérature patristique, inspiratrice de tant de beauté et de dévotion, qui pendant je ne sais combien de siècles a prétendu le contraire? Est-ce un démenti qu'il entend donner à toute cette auguste tradition, non seulement au Père, mais au Pape, parlant dans l'encyclique Providentissimus, mais à la liturgie catholique tout entière? L'encyclique Providentissimus, c'est une encyclique de Léon XIII, de 1893, qui était dirigée contre ce que l'on appelait l'école large, donc d'interprétation de la Bible. Alors, au contraire, justement, de cette espèce d'instrument qu'utilise la critique littéraliste et moderniste, Claudel, lui, nous présente la Bible comme quelque chose de vivant et quelque chose d'infiniment vénérable. Bon, tout d'abord, il est absolument persuadé, comme toute la tradition, c'est dans les actes du Concile de Trente, c'est repris dans le Concile Vatican I, que, je cite, « la Bible est le livre sublime dont l'Esprit Saint est l'auteur et dont l'Église catholique a seule qualité pour se faire l'interprète. » Donc, on ne touche pas à ce qui a été écrit par l'Esprit Saint. À partir de là, il a toute latitude pour descendre tous les textes qui, à son avis, trafiquent l'écriture sainte. Le terme familier est de lui. C'est le cas de la Bible de Crampon, calquée, comme il dit, sur la protestante Segond. C'est le cas également de la Bible des bénédictins de Maretsu, qui lui envoie un exemplaire de leur volume en 1950. Et voilà le commentaire de Claudel à l'arrivée. Véritable parti pris d'aplatir, de minimiser, de faire la part aussi chiche que possible à l'esprit, de se mettre à la portée dans l'âme de leurs auditeurs de ce qu'il y a de plus bas, de plus grossier, de plus vulgaire, j'allais dire, mais je ne le dis pas. Donc, là encore, finalement, il n'y a que la Vulgate qui reste, et la Vulgate dans son texte latin. Aucune traduction et aucune manipulation du texte biblique n'est possible. La Bible, donc, n'est pas un texte mort sur lequel on peut travailler. Ce n'est pas un cadavre sur lequel on fait une autopsie. En revanche, la Bible lui apparaît tout à fait comme un être vivant. Et ça, il le redit à de très nombreuses reprises. Je cite, « C'est que précisément la Bible n'est pas un amas de documents hétéroclites. C'est un édifice composé de matériaux intelligents. Ou plutôt, c'est un être vivant que nous voyons croître et se développer sous nos yeux, comme le gland qui sait dès le commencement qu'il sera un chêne et qu'il ne peut pas devenir autre chose inexorablement qu'un chêne. Partout, à travers des truchements divers, des langages divers, des formes diverses, des occasions diverses, nous retrouvons le même auteur qui a à nous parler de la même chose, conscient du même trésor et usagé du même répertoire. Cet auteur, nous autres, fidèles catholiques, nous le savons, c'est l'Esprit Saint. Qu'elle n'est pas notre éblouissant, notre prodigieux privilège de posséder, resserrer entre les pages d'un livre, cet Esprit Saint dont il est dit qu'il est capable de nous suggérer toutes choses. » Donc, ce texte, qui est un texte vivant, qui est le texte de la liturgie, requiert non seulement l'intelligence, mais également toute l'affectivité humaine. Il y a comme une sorte de rapport conjugal, rapport à la fois amoureux et chaste, qui s'établit entre l'écriture et son lecteur. D'où le fait que, dans un texte du même volume, l'écriture soit comparée à Abissag et Claudel, commentateur, au vieux David. Il y a cette espèce de rapport affectif très étroit et très émouvant qui se noue entre les deux. Alors, pour conclure sur ce premier temps, je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment Claudel lit-il la Bible? Alors, de façon concrète. Nous en avons la réponse dans un très beau texte qui est dans le même volume que J'aime la Bible, intitulé « La rose et le rosaire », qui est un texte marial, comme son titre l'indique, et qui est paru en 1947. Je vais vous en citer un passage qui se trouve au début d'un chapitre qui porte ce curieux titre, sur lequel je m'expliquerai immédiatement après, « Exclamation ». Et voilà ce texte, que je trouve magnifique. « Au moment où j'écris ces lignes, le propre du temps fait de nouveau passer sous mes yeux cet incomparable arrangement de psaumes, d'antiennes et de leçons, et parmi elles, cette suave et retentissante homélie de Saint-Germain, le flot de louanges le plus véhément et le plus pur qui soit jamais sorti d'un gosier humain, qui constitue l'office de l'Immaculée Conception. » Et je suis frappée une fois de plus de ce procédé de composition du langage de l'Esprit-Saint que j'appellerais stellaire. Il ne s'agit pas ici du cheminement logique, ni de la phrase lyrique, ni de l'ample houle de l'éloquence et de l'épopée. Ce serait plutôt comme un groupe de détonations simultanées, non point celle seulement d'une corde qu'on pince, mais la déflagration de cette image unique. Nous sentons qu'elle est en train de pourvoir à travers le ciel à tout un système de signaux correspondants. Donc, première remarque à faire à propos de ce texte, Claudel fait une digression. Il est en train de rédiger un texte sur la Sainte Vierge. Au moment où j'écris ces lignes, le propre du temps me fait dévier sur autre chose et me fait commenter cet office de l'Immaculée Conception. Donc, lecture absolument quotidienne et liturgique. Claudel ne lit pas la Bible d'un bout à l'autre. Il lui arrive, bien sûr, quand il commente Ézéchiel ou Isaïe, de lire le texte in extenso. Mais ceci se double d'une lecture qui est une lecture liturgique. Claudel va à la messe tous les jours. Il a donc tous les jours en tête l'épître, l'évangile, plus les différents passages de psaumes qui accompagnent les textes de la messe. Par ailleurs, Claudel avait pris l'habitude de lire le bréviaire. Il avait donc également en tête les leçons du bréviaire, plus les psaumes des diverses heures de la journée. Donc, irruption dans un livre où la liturgie entre en règne, où elle est véritablement à sa place. Par ailleurs, et c'est bien pourquoi il retient cet office de l'Immaculée Conception, en dehors du fait qu'elle lui rappelle la lecture justement du soir de sa conversion, il est absolument séduit, et c'est le poète là qui parle, par cette espèce de patchwork de textes combinés qui se reflètent les uns les autres. C'est tout un jeu d'images, c'est tout un jeu de miroirs. Alors pour reprendre un petit peu les textes de l'Immaculée Conception, l'introïte qui est emprunté à Isaïe, texte d'exultation, Gaudens, Gaudebo, etc. L'épître qui est la célèbre prosopopée de la sagesse. Le graduel emprunté à Judith, là encore célébration de la gloire de Jérusalem. L'Alléluia, qui est la métaphore nuptiale tirée du Cantique des Cantiques. L'Évangile, c'est le Missus Est, c'est l'Évangile de l'Annonciation. L'Offertoire, qui reprend la salutation angélique. Le chant de communion, qui est le psaume 86, là encore, éloge de Jérusalem. Voilà quelle est la déflagration de l'image unique. La gloire de Marie qui apparaît à travers toutes ces images qui se rassemblent pour en former une seule. À cela s'ajoutent les textes du bréviaire. Alors la fameuse homélie de Saint-Germain dont Claudel parle ici, c'est celle qui se trouve au troisième nocturne de l'Immaculée Conception. Une présentationnée Dei Pare. On peut y ajouter les lectures de la Genèse qui se trouvent dans le même office, plus un passage de Saint Jérôme et un passage de la bulle de Pie IX, Ineffabilis Deus, qui définit le dogme. Si on ajoute à cela les hymnes, les capitules, on a une sorte d'ensemble parfait que le poète contemple et prie à la fois, en sorte comme s'il admirait la perfection absolue de ce jeu d'images qui reflète la gloire de la Sainte Vierge. D'où ce titre exclamation. Exclamation justement d'admiration, de confusion devant cette admirable construction à la fois intellectuelle et spirituelle qu'a faite la liturgie en associant ces divers textes ou ces divers fragments de textes. Alors pour conclure sur cette première partie, nous avons donc conjonction d'une lecture linéaire et d'une lecture liturgique qui s'enrichissent l'une l'autre. Et c'est le contact des deux, précisément, plus l'usage de la concordance. Je ne cacherai pas que Claudel avait une concordance latine et qu'il l'utilisait abondamment. Mais l'usage de la concordance n'est pas un usage bête, un usage purement de dictionnaire. Cette concordance fait jaillir justement des réseaux d'images et à partir de là va se fabriquer une véritable écriture poétique. Bon, je signalerai également au passage la connaissance étonnante que Claudel avait de la Bible. Ça se voit aux très nombreuses citations approximatives qu'il fait. Finalement, les citations approximatives sont peut-être plus parlantes que les citations exactes, puisque ça prouve qu'il n'est pas allé les vérifier et que donc il les avait en tête. Et elles sont extrêmement fréquentes sous sa plume. On peut dire qu'il porte véritablement l'écriture en lui à partir de trois livres qui sont le Missel, sorte d'anthologie, le Bréviaire, deuxième anthologie, et la Vulgate qui lui offre donc le texte suivi. Et que la lecture pour Claudel est plus une rumination, une méditation au fil des heures qui interfère avec les autres lectures et les enrichit. De cela est témoin le journal où très souvent Claudel note au jour le jour justement une citation latine complètement dégagée de son contexte et qui vraisemblablement a quelque chose à voir avec sa méditation du jour, avec sa vie du jour, avec sa vie intérieure et spirituelle du jour. Voilà, alors je voudrais passer maintenant au deuxième point. Nous allons toucher à des questions peut-être plus directement spirituelles ou théologiques. La Bible comme miroir spirituel, le livre de la gloire et de la grâce. Alors je vais repartir du motif des images et c'est à partir de là que je vais arriver à essayer de construire cette théologie de la gloire et de la grâce. Nous avons vu tout à l'heure que Claudel disait que ce qui l'intéressait dans la Bible finalement c'était ce jeu d'images. C'est ça qu'il a découvert quand il était enfant chez les sœurs de Bar-le-Duc, c'est ça qui l'a frappé le soir de sa conversion et c'est ça qui continue de le séduire dans les textes qu'il découvre à travers la liturgie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque Claudel va parler de la Bible, lorsqu'il va parler du texte saint, du texte sacré, il va le définir à travers des images, c'est-à-dire qu'il va lui-même, en tant que poète, utiliser des images pour le qualifier. Le poète use d'images pour parler de la Bible, images qui sont d'ailleurs elles-mêmes suscitées par le texte biblique. Je vais vous en donner des exemples pour que cela devienne plus clair. Alors, c'est toujours au début de J'aime la Bible. Vous allez reconnaître tout de suite l'image. La nature m'a refusé le don précieux d'avoir des mains au bout des bras. En tout cas, elle ne saurait me servir à dessiner. Quel dommage, car toutes sortes d'images se pressent dans ma tête qui n'auraient besoin que d'un crayon pour s'extérioriser. Par exemple, celle-ci qui me hante. Un évêque, mitre en tête et crosse en main, qui vole par-dessus la terre, non pas comme le bon Dieu que le psaume nous représente ainsi en inspection à cheval sur un séraphin, mais à genoux. À genoux sur un livre énorme, ouvert par le milieu, dont les pages se déploient comme des ailes. C'est la Bible, je ne suis pas un évêque, fidèle à ses devoirs de surveillant, mais puisque la Providence a mis un char de feu à mes dispositions pour voyager à travers l'espace et le temps, pourquoi refuserais-je de m'en servir ? À genoux. Donc la Bible comme char de feu, comme monture sur laquelle le poète et le commentateur s'installent. Bien évidemment, il fait référence ici au char d'Ézéchiel. Et cette monture, nous la retrouverons d'ailleurs par la suite, nous avons l'expression monture spirituelle, deux pages plus loin, jaillit directement du texte biblique lui-même. Ce début de J'aime la Bible est extrêmement intéressant parce qu'il va y avoir tout un glissement d'images. Alors de la monture spirituelle, je signale d'ailleurs qu'on m'a fait remarquer une autre fois où j'avais fait cette conférence que l'image de la Bible, du texte biblique comme monture spirituelle se trouve chez Saint-Irénée. Alors là, je ne pourrais pas vous dire si Claudel l'a trouvé là, il a lu du Saint-Irénée, ou si c'est une rencontre intuitive, c'est tout à fait possible. Mais enfin, en tout cas, il y a très souvent des convergences avec la manière des premiers pères de l'Église, ça c'est une évidence absolue. Donc, il va y avoir maintenant tout un glissement d'images, et là c'est le poète qui est à l'œuvre. Nous allons glisser de l'image de la monture à une seconde image qui est l'image de l'édifice et de l'habitation. Donc, il parle de cette monture spirituelle. Qu'a été ma vie pendant 40 ans que de faire voisiner tous les horizons de la planète et tous les versants de la sensibilité, jusqu'au moment où une circonstance futile va me faire comprendre qu'après le temps de la dispersion était venu celui du rassemblement, que l'écriture sainte était autre chose qu'un véhicule, qu'elle était pour elle-même un édifice sublime, propre non seulement au culte mais à l'habitation, et à qui le monde entier n'était fait que pour servir de support et de parure. Donc, vous voyez le passage du véhicule à l'édifice qui correspond tout à fait au cheminement biographique graphique de Claudel, passage de la vie d'ambassadeur, de la vie itinérante à la retraite, à la vie fixe et sédentaire, passage de la dispersion au rassemblement, passage de l'œuvre dramatique à l'œuvre exégétique. Cela correspond tout à fait au cheminement des images. Cette image de la maison, de l'édifice, elle a encore sa source dans la Bible elle-même. Claudel cite à ce propos le passage du psaume 25 qui est dit tous les jours à la messe au moment du lavabo, « Domine dilexi decorem domus tuae »« Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison ». À partir de là, nouveau glissement, nous passons de la demeure, au sens général du terme, à l'évocation de Jérusalem. La Bible, c'est bien sûr une image de Jérusalem, et là encore, Claudel cite un psaume, le psaume 21, il cite un verset difficile d'ailleurs, mais qu'il aime beaucoup à citer, qui se trouve notamment dans l'office de la dédicace des églises, que Claudel lisait fréquemment. « Jérusalem, quae edificatur ut civitas, cuius participatio eius in ipsum. » Jérusalem qui est construite comme une cité, et dont la participation est avec elle-même, dont la participation est avec son être propre. Et cette image de Jérusalem apparaît à Claudel comme justement une image de la Bible, une étonnante cité, une cité vivante où la stabilité n'exclut pas le mouvement et où le passé ne cesse d'obéir à l'avenir. Nouveau glissement, nous passons de l'édifice, de la cité vivante, à ce que Claudel appelle un drame architectural. La Bible n'est pas une ville statique, mais c'est une ville en mouvement, d'où l'idée du drame, c'est à prendre au sens grec du mot de drama, c'est une action architecturale, l'expression est très belle. Alors pourquoi ce drame architectural, avec bien sûr un effet de clin d'œil à sa propre œuvre, à cette préférence, j'y reviendrai un peu plus tard, qu'il avait pour le drame sur toute autre forme, sur tout autre genre littéraire. Eh bien c'est un drame parce qu'il y a une intrigue, parce qu'il y a une action. Cette action, c'est une histoire d'héritage, et là Claudel va se mettre à broder sur le terme de testament, vous avez toute une page, vous avez toute une très belle broderie sur le mot de testament, c'est une histoire d'héritage, une histoire de testament qui s'accomplit sous nos yeux et dont l'aboutissement est bien sûr le Christ. Le bien que Dieu nous lègue par écrit sous forme authentique, ce n'est autre chose que son Fils, ce Fils bien-aimé, nous dit l'Évangile, en qui il a mis sa complaisance. Lui seul, en effet, est l'héritier légitime, à qui tout ce qui est à son Père appartient par droit de naissance, sans qu'il y ait usurpation. Donc vous voyez comment on a évolué de l'Ancien Testament au Nouveau d'abord, d'une sorte de suite d'images qui peut paraître incohérente à première vue, mais qui a son point d'aboutissement très précis, justement, dans la figure du Christ. Et cela est tout à fait symptomatique de la manière habituelle de Claudel. de faire justement, c'est ce qui rend son texte difficile d'ailleurs, les étudiants ont quelquefois un peu de mal à le saisir parce que c'est plein de digressions, on a l'impression que le texte s'éloigne de son propos, mais en fait quand on le serre de près et quand on étudie la composition, on se rend compte que le Christ, le Verbe, en plus le Verbe comme mot parfait, est justement le point d'aboutissement de toutes les images et qu'il ne peut pas en y avoir d'autres. Et il y a de ce point de vue de très admirables clausules de paragraphes et de chapitres qui sont toujours justement des images qui aboutissent à une méditation sur le Christ. Je vous citerai un petit passage de la page suivante. « Tout le vocabulaire de l'écriture n'est fait que de termes concrets, que de mots tout prêts, dans l'appel qu'ils font à d'autres mots à apprendre ce qu'ils veulent dire. Image de Dieu qui ne demande qu'à consommer à ses pieds, un sacrifice de signification. » Un sacrifice de signification, vous voyez que vous avez à la fois l'idée du Christ Verbe et en même temps l'idée du sacrifice, qui est une idée essentielle, qui se rejoignent là de manière, à mon avis, assez admirable. Donc, on peut dire qu'il y a ici renouvellement par le poète de ce que l'on appelle le sens allégorique de l'écriture, qui consiste à voir la présence du Christ dans tout l'Ancien Testament. C'est le message des pèlerins d'Emmaüs. Donc, le Christ est inscrit non seulement dans des situations de l'Ancien Testament, mais il est inscrit dans les mots eux-mêmes. Et justement, Claudel va aller, en quelque sorte, déchiffrer cette présence christique à l'intérieur même des mots. Je vous en donnerai un exemple qui se rattachera d'ailleurs au propos... à mon propos tout à l'heure, à la polémique que Claudel engage contre les modernistes et les littéralistes, et en même temps qui nous acheminera vers le thème de la gloire célébrée à travers l'écriture. C'est un exemple que Claudel donne justement d'une interprétation fautive d'un texte célèbre de Saint Jean qui effectivement a fait verser beaucoup d'encre. Alors, je vous lis le texte de Claudel et ensuite je vous donnerai les différentes explications. Ce n'est pas dans J'aime la Bible, c'est dans un texte intitulé « Du sens figuré de l'écriture », fort intéressante aussi, qui a servi de préface à la réédition d'un petit ouvrage fort peu connu, qui était un commentaire de type moral du livre de Ruth par l'abbé Tardif de Moidret. Texte dont Claudel s'est entiché et pour lequel il a rédigé cette préface tout à fait admirable. Alors je cite, on trouve dans Saint Jean 8:25 un passage où les Juifs, une fois de plus, demandent à Jésus qui il est. Et notre Seigneur répond, il commence par citer le grec, ten arken oti kai lalo humin, ce que la Vulgate traduit, principium qui et loquor vobis. On voudrait nous forcer à traduire aujourd'hui en s'autorisant de l'araméen, dès le début, je vous ai dit qui je suis. Ce qui est d'ailleurs inexact, car autrement les Juifs ne seraient pas là à lui demander encore une fois. En tout cas, cette réponse est d'une pauvreté désolante. Et alors on se demande pourquoi les deux versions, grecque et latine, se seraient permis ces violences grammaticales qui fracturent, pour ainsi dire, le langage humain pour y faire passer la majesté du verbe. En dépit de tous les philologues, le chrétien préférera toujours la version de la Vulgate qui réintroduit, aux dépens de la syntaxe, l'acteur formidable du premier verset de la Genèse et du premier verset de l'Évangile de Saint Jean. Cet exemple de barbarisme est loin d'être isolé dans l'écriture et les pères nous recommandent d'y faire attention. Un poète, en tout cas, l'accueillera non seulement sans scandale, mais avec un véritable plaisir. Donc, pour reprendre le texte « Principium qui et loquor vobis », l'ambiguïté repose sur le mot « principium », qui peut être considéré comme un substantif, qui veut dire à ce moment-là le principe, le début, le commencement, et peut être également considéré comme un adverbe, qui veut dire tout simplement « au commencement ». D'où les deux traductions possibles. « Dès le début, je vous ai dit qui je suis », ou alors « je suis le principe, moi qui vous parle ». Toute la syntaxe de la phrase est remise en question. Alors, pour vous donner un petit échantillonnage, la Bible de Second, donc la Bible protestante, traduit d'abord « pourquoi vous parlerai-je ». Ce que reprend la Bible de Crampon, principium peut également avoir le sens de absolument. Crampon traduit par absolument ce que je vous déclare. La Bible de Fillon, en revanche, garde la traduction que prise Claudel, je suis le principe, moi qui vous parle. Le missel de Don Lefebvre, d'ailleurs, lorsque cet évangile est cité le lundi de la deuxième semaine du carême, donne cette traduction, je suis le principe, moi qui vous parle. Pourquoi est-ce que cette traduction est celle que choisit Claudel? Eh bien, parce que c'est celle, justement, qui est au cœur du principe poétique et spirituel des consonances. C'est la Bible, dit Claudel, qui doit servir à comprendre la Bible. Ce principium, qui est là, principium qui et loquor vobis, il fait écho au début de la Genèse, comme Claudel le dit, in principio creavit Deus celum et terram. Il fait écho au prologue de Saint Jean, in principio erat verbum. Il fait écho à l'épître aux Colossiens, et ipse est caput corporis ecclesiae, il est lui-même la tête du corps de l'Église. Qui est principium, lui qui est le principe, primogenitus ex mortuis, le premier-né d'entre les morts, ut sit in omnibus ipse ut sit in omnibus ipse primatum tenens, afin que, en toute chose, il ait lui-même la primauté. Donc vous avez tout cet effet d'écho qui dit la nature du Christ, qui dit véritablement sa nature divine, qui est une espèce d'écho de l'ego sum qui sum de l'Ancien Testament, du Père. Ainsi, ce sont les mots qui s'appellent les uns les autres, et ce sont les mots qui font sens. Et cette primauté absolue du Christ, cette primauté de toute éternité pour la gloire du Père, elle est véritablement prise, si vous voulez, dans le tissu des mots, et c'est ce mot de principium qui l'a dit. C'est pourquoi le traduire par un adverbe est, aux yeux de Claudel, non pas un barbarisme, il fait une erreur, mais un contresens absolu, un contresens théologique. C'est ainsi que le poème exégétique, qui fonctionne toujours selon ce principe, en fait, hein, Claudel travaille avec sa concordance. Quand il voit un mot qui l'intéresse dans un texte biblique, il prend sa concordance pour voir où il apparaît ailleurs, il compare les textes et il prend les plus représentatifs. Et à partir de là, il bâtit son commentaire. C'est ainsi que le poème exégétique va véritablement devenir un poème de la gloire, un poème qui appelle l'action de grâce et qui est fait pour cela, qui n'a absolument pas pour fonction et pour but de pinailler sur le texte, de faire un travail de grammairien, mais au contraire, le but ultime, le point d'aboutissement du commentaire, c'est bien évidemment la méditation et la prière. De quel cœur ne devons-nous pas répéter cette action de grâce que le Gloria de la messe nous met chaque jour dans la bouche ? C'est cela la fonction du commentaire et c'est cela son point d'aboutissement. Alors, on a vu tout à l'heure comment Claudel retravaillait en quelque sorte le sens allégorique, c'est-à-dire comment il retrouvait la présence du Christ à travers les termes mêmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il ne faudrait pas non plus faire abstraction du sens moral, ce que l'on appelle dans les quatre sens de l'écriture le sens moral, c'est-à-dire le sens qui consiste à rapporter tel verset de l'écriture à une expérience intérieure, une expérience pénitentielle, une expérience spirituelle. Claudel use tout à fait de la Bible dans cette perspective. Le sens allégorique entraîne le sens moral, le Christ est présent partout, c'est donc par rapport à cette présence du Christ que l'on doit lire la Bible et que l'on doit s'examiner soi-même en fonction de cette lecture. Le centre de ce que Claudel a appelé tout à l'heure le drame architectural, c'est la croix sur laquelle toute la Bible est construite, et cette croix qui nous invite à une méditation systématique. La Bible est un drame qui se joue entre Dieu et l'homme, et l'homme doit toujours se regarder lui-même, précisément sous ce regard de Dieu. Alors je vous disais tout à l'heure que le journal en est une preuve constante, je ne vous en donnerai pas toutes les citations parce qu'elles sont très nombreuses. Application systématique à soi-même de versets bibliques. C'est particulièrement net avec l'ouverture du journal en 1904, en plein drame personnel, plein drame passionnel même, c'est le départ d'Isée, c'est le drame qui est raconté ensuite dans Partage de Midi. Eh bien c'est une anthologie de citations des prophètes, anthologie des citations sur le péché, Isaïe d'ailleurs à la primeur, et dans sa correspondance, au même moment, Claudel fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il prélève tel ou tel verset et qu'il l'applique d'une certaine manière à sa propre situation, et on sent que le verset a une fonction consolatrice et une fonction spirituelle très puissante. Je vous cite un passage d'une lettre à Suarez du 27 septembre 1905. « Ah, que les journées où l'on souffre sont longues, alors il arrive qu'on n'en peut plus et que l'on tombe à genoux et que l'on dit à Dieu, comme le prophète Élie, « Prenez-moi, mon Dieu, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc vous voyez comme la citation là encore vient en quelque sorte soutenir véritablement le propos et en même temps soutenir l'homme, enfin dans un état justement de déréliction. Je vous citerai un autre passage qui me semble tout à fait symptomatique de cette utilisation du sens moral. C'est un passage où Claudel médite sur le livre de Job. Alors ce passage est intéressant en plusieurs titres. Il se trouve dans J'aime la Bible, ce n'est pas du tout un commentaire suivi du livre de Job. Claudel en vient à citer Job parce que il vient de parler, tout ça se fait par association d'idées, il vient d'évoquer l'office des morts qu'il lisait fréquemment. Or, le texte que l'on lit au matin des morts, c'est précisément un certain nombre de passages du livre de Job. Ce texte est intéressant aussi parce que justement c'est un des passages tout à fait typiques où Claudel ne le cite pas exactement. Les versets sont mis bout à bout mais pas dans l'ordre, ce qui prouve bien qu'il le cite de mémoire. Je suis persuadé quand il a écrit cette page, il n'avait pas le texte de Job sous les yeux. Il le cite de mémoire parce qu'il le connaît très bien, parce qu'il s'en imprègne et qu'il lit l'office des morts non seulement le 2 novembre mais beaucoup plus souvent que cela. C'était un office qui lui semblait particulièrement admirable et qui était d'ailleurs beaucoup lu aussi par ses contemporains. Enfin, on trouve ça chez pas mal d'auteurs du début du siècle. Bien, donc citation de mémoire de ce qu'il appelle ce plaidoyer quasi blasphématoire de l'homme de Hus. Et vous allez voir, je vais vous lire le texte, là encore il est un petit peu long, mais je crois qu'il vaut la peine d'être cité. La citation de Job aboutit à une méditation sur Gethsémani. Là encore, nous avons cette espèce de mouvement qui part de l'Ancien Testament pour aboutir nécessairement au Nouveau et pour aboutir nécessairement au Christ. Donc je cite. « Job fait partie du fond le plus ancien de la littérature biblique. » Et voici qu'à l'autre bout de ce chemin d'écriture qui se prolonge à travers les siècles, nous apparaît un autre Job, mais combien plus douloureux, un résumé combien plus parfait de tout ce que la destinée humaine peut offrir à nos yeux, non seulement de souffrance physique ou morale, mais d'injustice, une injustice non plus accidentelle, mais fondamentale. Nous sommes arrivés, nous sommes à Gethsémani. Il ne s'agit plus d'un riche propriétaire qui perd son bien, d'un père de famille privé de ses enfants, d'une chair en proie à un ennemi aveugle et qui ne sait ce qu'il fait. Nous sommes à Gethsémani et il s'agit de Dieu qui s'est fait homme. Un Dieu qui a assumé toute l'horreur de l'humanité. Regarde, vieux Job, tu l'appelais en justice ? Le voici qui a répondu à ta citation. Tu lui demandais de comparaître ainsi d'égal à égal ? C'est fait. Qu'en dis-tu ? S'est-il assez dépouillé de la divinité ? Tu chercherais en vain quelque chose de plus nu et de plus désarmé. Job avait des amis qui, maladroitement sans doute, mais sincèrement, s'intéressaient à son sort. Celui-ci aussi a des amis que pendant 3 ans il a nourris du plus intime de son cœur et de sa pensée, et on peut bien le dire, de sa chair et de son sang. Ils sont là par terre en train de ronfler, et quand ils se réveilleront de leur sommeil stupide, ce sera pour se sauver à toutes jambes. L'un le plus cher le renie, et l'autre l'a livré pour de l'argent. Au nom de la propre loi que lui-même a donnée aux hommes, il est solennellement accusé, jugé, condamné, excommunié, exécuté. Les anges épouvantés regardent le Créateur du monde, en proie sans aucune défense à son adversaire. Bon, vous voyez le cheminement du texte donc, qui part de Job pour aboutir au Christ et qui en même temps est une interpellation au lecteur, bien sûr, qui est invité à se reconnaître dans ses accusateurs. Hein. L'adversaire, c'est nous en même temps, et l'adversaire, c'est Claudel qui écrit ce texte, qui médite justement sur la présence du mal, l'existence du mal et la présence du Christ qui est là pour nous sauver. Alors, tout ceci pour vous montrer à quel point Claudel, dans son travail sur l'écriture, qui est un travail éminemment personnel, en fait, il écrit beaucoup plus pour lui que pour un éventuel public, que ses livres ont été pelus de son vivant, il le regrettait d'une certaine manière, mais d'un autre côté, il se félicitait de cette espèce d'intimité de lui-même et du texte biblique. C'est donc un homme de bonne foi, un homme qui vit son catholicisme de manière sérieuse et honnête au jour le jour. Pour l'anecdote, je vous ai cité tout à l'heure le petit passage sur le Père Lagrange, je vous donnerai deux petits passages anecdotiques du même genre qui situent bien l'homme. Il note quelque part dans son journal qu'il est humilié d'avoir toujours à répéter les mêmes choses au confessionnal, bon, comme nous tous, enfin, si vous voulez, c'est un homme parmi les autres. Autre citation du journal, là encore, espèce de petite remarque spirituelle faite avec humour, qui est le revers, si vous voulez, de l'ambassadeur, de l'homme un petit peu plein, un peu vaniteux, qui a souvent été présenté par ses adversaires. Je cite, c'est une citation qui se trouve dans le journal au 5 janvier 1915. 5 janvier, déjeuner avec la duchesse de Clermont-Tonnerre, la comtesse Antoine de Beaumont et l'abbé Munier. Fait le coq. Voilà. Donc, ces petites remarques montrent bien que constamment Claudel sait se remettre à sa place. C'est un homme qui, dont le journal tout d'abord et ensuite les commentaires sur l'écriture, pour lui, ce travail va lui servir à se remettre en présence du Christ en gloire, hein, par une méditation nécessaire sur le Christ souffrant et justement à se situer véritablement dans un univers spirituel. Alors ceci passe également par un autre canal, si je puis dire, et je passe au livre de la grâce, c'est le canal de la dévotion mariale. Jusqu'à présent, j'étais dans la continuité des pèlerins d'Emmaüs. Maintenant, je vais plutôt passer à Proverbe 8, et nous allons voir comment il y a également toute cette méditation sur la grâce, qui est une méditation sur la Sainte Vierge, et qui est également tout à fait admirable. Alors, je vous dis tout à l'heure que le texte évoluait constamment de digression en digression. En fait, ce sont des fausses digressions, c'est plutôt une espèce de broderie d'images, de chapelet d'images. Le texte aboutissait constamment au Christ, mais le Christ est absolument inséparable de sa mère, et il n'y a pratiquement pas une page de Claudel où le Christ soit évoqué indépendamment de la Sainte Vierge. Exemple, je cite, « L'Ancien Testament est le lait, nous reprenons l'image de l'héritage, l'Ancien Testament est le lait de tout ce qui, en tant qu'efficacité à travers les siècles par les mérites du Christ, ultérieurement réalisé, aboutit à l'incarnation, c'est-à-dire à la Sainte Vierge. Et le Nouveau Testament est la dispensation par le moyen des sacrements de ce fruit longuement réalisé. La justice au sein de la Vierge a été aspirée par la miséricorde, tout s'est passé en même temps, la grâce du haut de la croix a répandu sa rosée et la terre, sous cette action bienfaisante, a germé son sauveur. » Vous aurez reconnu le roraté chez Lydée Souper, Isaïe de l'Avent, et vous voyez là encore comme la citation biblique vient en quelque sorte magnifier le texte claudélien. Donc, face à la justice, il y a la miséricorde, face à la splendeur de la gloire du Christ, il y a l'intimité de la présence de sa mère. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'autre tonalité de l'écriture. Tonalité féminine, tonalité maternelle, tonalité plus douce peut-être. Je cite, « L'écriture nous fait assister ligne à ligne à ce tendre enseignement de la grâce. Ce n'est pas assez pour elle de nous dire d'aimer Dieu et de nous expliquer pourquoi. Elle nous apprend comment faire. » Donc, surgissement à l'intérieur de ce drame architectural d'un autre ton, d'une autre voix qui se marie à la première et qui en est indissociable. Je cite, « Dieu qui est l'unique fin de l'homme, comment ne serait-il pas l'unique fin de lui-même ? L'incarnation, la rédemption, ses actes immenses, l'homme en a bénéficié, mais la fin dernière pour le Fils n'était autre que le Père, que la réparation du dommage fait à son Père, que la restauration de son œuvre abîmée, abîmée non seulement par le péché originel de l'homme, mais par la révolte primordiale de Satan. » Il est bouleversant, il est étourdissant de penser que pour cette œuvre, il a eu besoin de nous et continue d'avoir besoin de nous. De là, l'incomparable dignité de la Sainte Vierge au-dessus de tous les saints et de toutes les saintes. Donc vous voyez là encore l'évolution du texte, hein, on passe du Père et du Fils à la Vierge, et ceci est absolument systématique sous sa plume. Bon, la Sainte Vierge n'a pas seulement cette fonction d'appoint, la méditation Claudel va beaucoup plus loin, et s'appuyant sur les concordances liturgiques, et notamment sur cette magnifique messe de l'Immaculée Conception, elle s'élance dans un immense jeu de figures que l'on peut résumer par une formule assez célèbre, qui est la clé de l'œuvre de Claudel, qui est une sorte d'équation où il établit une équivalence métaphorique, équivalence d'image entre la sagesse divine, la Sainte Vierge, l'Église et, par analogie, la grâce. Donc vous avez l'élément théologique qui se marie à l'élément liturgique, qui se marie à l'élément biblique, et tout ceci converge, si vous voulez, dans de très beaux textes mariaux qui célèbrent justement cette présence médiatrice de la Vierge entre Dieu et les hommes. Claudel va même plus loin, et puisque nous parlons de la Bible et de l'Écriture, je vais vous donner cette dernière association qu'il n'a pas inventée, puisqu'elle est tout à fait dans la lignée des pères de l'Église. En effet, la Vulgate, comme réceptacle du Verbe, va s'assimiler à la Vierge qui porte le Christ. La Vulgate porte le Verbe, porte la parole, comme la Vierge Mère porte son enfant. Et Claudel tombe sur une très belle formule que je vais vous citer dans le bréviaire. Elle se trouve à l'octave de l'Immaculée Conception. C'est une formule de Saint Épiphane de Salamine, du IVe siècle de notre ère, bien sûr. Je vous la donne en latin parce qu'elle est admirable en latin. Je vous la traduirai tout de suite après. C'est une invocation à la Vierge, donc. Ave liber incomprehensus, quae verbum et filium patris mundo legendum exhibuisti. Je vous salue, livre inaccessible à l'intelligence, incomprehensus, livre qui a donc montré au monde pour qu'il le lise le Verbe et le Fils du Père. Et ce livre, c'est la Vierge qui est présentée donc comme le réceptacle de la parole, comme le réceptacle du Verbe. Donc on a ce très beau motif de la Vierge livre, qui évidemment est tout fait pour plaire à un poète, assimilation de la lecture de la Vulgate à l'écoute attentive d'une parole aimante et maternelle. Inversement, la Vierge se présente comme substitut de la Bible, et là encore, elle-même est le support du Verbe, elle-même est la tige de ce soleil qui éclaire le monde dans le rayonnement des paroles qui ne passent pas. Et là, on a encore une admirable phrase poétique qui est faite de la mise bout à bout, finalement, de fragments bibliques. La tige de ce soleil, c'est une évocation de la tige de Jessé, Radix Jessé, Isaïe 11. Ce soleil qui éclaire le monde, ça rappelle bien sûr le prologue de Saint Jean. Les paroles qui ne passent pas, c'est Matthieu 24, 35. On a en même temps une espèce de concentré de l'année liturgique, puisque c'est l'Avent avec la référence à Isaïe, et c'est les derniers dimanches après la Pentecôte avec les paroles qui ne passent pas, Matthieu 24. Donc on a une espèce de, dans cet envolé lyrique qui ressemble à une prière, c'est une fin de phrase, c'est une fin de paragraphe, on a justement cette espèce de piété humble qui se manifeste et qui en même temps dit l'enthousiasme de Claudel devant le texte biblique. Alors, je parlais de piété humble. Vous voyez que Claudel est un homme qui s'efface devant le texte, et ça, on ne peut que lui en rendre hommage. C'est un homme qui dit son chapelet sous les nappes pendant les dîners officiels. C'est un homme qui pratique la confession et l'examen de conscience. Ceci dit, sa méditation sur l'écriture est aussi une méditation très savante, et je voudrais terminer par là et revenir au poète théologien et voir comment une telle lecture de la Bible, une telle conception de la Bible a un fondement théologique absolument certain et absolument sûr, et comment il y a une justification théologique de ces réseaux d'images qui peuvent quelquefois paraître un petit peu farfelus. Il y a d'ailleurs des théologiens qui s'en sont prises à Claudel et qui lui ont dit qu'il tombait finalement dans la pire esthétique baroque ou la pire esthétique médiévale, qui n'avait aucune justification théologique. Alors on va essayer de voir ce qu'il en est véritablement. Alors, tout d'abord, il y a un postulat initial qu'il convient de considérer et qui est celui de Claudel, il le dit à plusieurs endroits, qui est la clé à la fois poétique et théologique de son œuvre, et qui est que la Bible est le langage absolu, le langage par excellence, le langage, c'est pour ça que c'est un langage auquel il ne faut pas toucher d'ailleurs. Alors, pour sortir un petit peu du texte d'exégèse, pour vous montrer qu'il le dit ailleurs, je vais vous citer un très beau texte qui a été écrit en 1921, à l'occasion du 6e centenaire de la mort de Dante. Il y a eu des manifestations organisées à ce moment-là et Claudel a été invité à y participer. Il a donc écrit un poème sur Dante et une introduction à son poème sur Dante. Ça se trouve dans le volume de la Pléiade de prose. Alors je vous cite ce passage. « Quand la Bible se sert des choses créées pour désigner des réalités éternelles, elle le fait non pas comme un littérateur étourdi qui choisit au petit bonheur dans son répertoire d'images, mais en vertu d'une convenance intime et naturelle, puisque de la bouche de Dieu qui a créé chaque être en le nommant, ne peut sortir rien que d'éternel. » Il y a donc un statut particulier des images dans la Bible. La Bible est pleine d'images, on se rend compte immédiatement. Mais une image dans la Bible n'a pas la même fonction qu'une image dans un poème de Baudelaire ou de Rimbaud. C'est donc ça qu'il va s'agir d'éclairer. Alors, l'idée que... La démonstration est la suivante. En fait, ce que nous prenons pour des images dans la Bible, ce que nous prenons pour du sens figuré, en réalité... Ce ne sont pas des images, ce n'est pas du sens figuré, c'est du sens propre absolu. Dieu possède le sens propre absolu, il est le seul à le posséder, sens tellement absolu d'ailleurs que c'est un sens qui échappe à l'homme, hein, que nous cernons vaguement, mais que nous n'arrivons jamais à déchiffrer intégralement. Ceci est fondé en théologie, ceci est tout à fait conforme à ce que dit saint Thomas dans la première question de la somme théologique que Claudel connaît bien. En effet, si on prend les deux derniers articles de cette première question, on se rend compte que, finalement, toute l'œuvre de Claudel les illustre poétiquement. Alors, je prends donc la première partie de la somme, question 1, article 10. Ça commence sur cette affirmation que l'auteur des Saintes Écritures est Dieu, hein, auctor sancte scripturae est Deus, homo autem instrumentum. L'auteur en est Dieu, l'homme n'en est que l'instrument. Propos repris par Claudel dans son journal, on en a déjà parlé tout à l'heure. Article 9, donc toujours de cette... Même première question, pourquoi l'Écriture sainte utilise-t-elle un langage imagé? Réponse de saint Thomas, eh bien parce que la connaissance de l'homme passe nécessairement par les sens. Donc il est nécessaire que le langage utilise également cette voie sensible, et il est parfaitement convenable que de ce point de vue-là, d'un point de vue simplement didactique et pédagogique, l'Écriture, l'Esprit Saint, utilise pour dire des choses spirituelles, pour faire passer un message spirituel, un langage imagé. Mais il ne faut pas s'y tromper. Tout dans la Bible a un sens spirituel que nous ne pouvons atteindre dans sa plénitude. Donc il ne faut pas tomber dans le piège des images. Il faut bien se persuader que ces images, finalement, sont simplement un moyen, qu'elles ne sont pas une fin. Article 10, toujours de la première question, l'Écriture parle au sens absolu, dans l'absolu du sens propre, et exemple donné par saint Thomas, je cite, « Quand, par exemple, l'Écriture parle du bras de Dieu, le sens littéral n'est pas qu'il y ait en Dieu un bras de chair, mais bien ce qu'on entend ou figuré par ce mot, à savoir une puissance active. Lorsque l'Écriture parle du bras de Dieu, ça veut dire puissance. Il faut traduire bras égale puissance. Il y a donc inversion, si vous voulez, du propre et du figuré. Quand l'Écriture a l'air de parler au figuré, en fait, c'est un sens propre absolu. C'est une puissance active qui, pour nous, est quelque chose d'inimaginable. C'est une puissance telle, puisqu'elle est parfaitement divine, que nous ne pouvons pas nous en faire une idée. Nous ne pouvons nous en faire une idée approximative qu'à travers une image qui se rapporte à quelque chose qui nous touche, qui relève de notre propre univers. Alors ceci, Claudel dit exactement la même chose, je vais vous citer un passage, dans un texte intéressant qui s'intitule « La théologie de l'Immaculée Conception ». Vous allez voir qu'il reprend à peu près exactement les propos de saint Thomas et qu'il en fait, en quelque sorte, le point de départ de sa propre poétique. Je cite « Quand la Bible nous parle de l'œil du Tout-Puissant, de ses oreilles qui lui servent à entendre et ses narines à sentir, de sa main et de son bras, de sa voix, de sa démarche, et pour passer à un autre registre, de sa colère, de sa délectation, de ses regrets, de sa moquerie, etc. Il ne faut pas croire qu'il s'agit là uniquement de métaphores, de figures de rhétorique. Il s'agit de réalités profondes dont notre chair en ce monde physique, par le moyen de nos organes, fournit la traduction. Nul besoin de plaider l'indulgence pour un rédacteur qui n'est autre que l'Esprit Saint et dont nous devons supposer qu'il sait ce qu'il dit. Il ne s'agit pas d'anthropomorphisme. Ce n'est pas Dieu qui est fait à l'image de l'homme, c'est l'inverse. Ce que nous appelons chez nous l'œil, l'oreille, l'odorat, les mains, les bras, tous les sentiments, toutes les passions, tout ce qui constitue notre être physique et moral, tout cela répond réellement, selon son mode, à une réalité de l'être divin. Tout cela le traduit, tout cela répond à une parenté, à une filiation. Et c'est là que nous sommes dans un contexte proprement théologique. Nous ne sommes pas dans un platonisme, il ne s'agit pas d'un réseau de reflets, il s'agit d'une participation. Une participation, justement, au langage absolu, qui est une participation imparfaite, étant donné le statut de l'homme, l'état de l'homme, mais qui est tout de même une participation. À partir de là, s'explique une image à laquelle j'ai déjà fait allusion à plusieurs reprises, qui est l'image sacramentelle utilisée par Claudel pour qualifier la Bible. La Bible, en effet, et ça s'explique avec cette conception du langage absolu, la Bible, c'est la présence réelle du Verbe absolu. Les mots y sont fulgurants, les mots y sont parfaits, c'est de la substance divine à l'état pur. Et c'est bien pourquoi il ne faut pas y toucher. C'est bien pour cela que, je répète une phrase que j'ai déjà citée tout à l'heure, toucher à l'Écriture, pour un chrétien, c'est comme si on touchait à l'Eucharistie. Ça explique la position de Claudel vis-à-vis du texte biblique. Alors, cette métaphore sacramentelle, Claudel l'utilise constamment. Je vous en cite un autre exemple. Cet énorme héritage dont l'Église nous a donné jouissance et dont la liturgie nous a laissé sur la langue le goût ineffaçable. Enfin, on a ce très beau passage que je voudrais également vous citer. Et voyez là encore que tous les fils se rejoignent. Enfin, on rejoint le Christ dans sa plus grande gloire, donc le Christ de l'Eucharistie, à l'intérieur même de cette réflexion sur l'Écriture. Oui, c'est une phrase que je vous ai déjà citée. Donc la Vulgate, qui est quelque chose comme l'Eucharistie, qui est la racine du paradis, le langage même de notre entretien avec Dieu. Alors tout ceci explique l'émerveillement de Claudel devant le texte de la Vulgate, hein, ce texte reconnu comme inspiré par l'Église, ce texte qui rayonne d'un éclat proprement surnaturel. Alors à partir de là, Claudel va s'incliner également devant les beautés de langage en esthète conscient que ce n'est pas là une pure forme, mais une forme pleine d'un contenu tellement sublime qu'il reste au-delà de l'appréhension humaine. Alors là, il y a deux choses qui se conjoignent, c'est justement cette connaissance théologique de Claudel, et en même temps, il ne faut pas oublier non plus son ascendance littéraire, il ne faut pas oublier que Claudel a passé sa jeunesse dans la fréquentation du mouvement symboliste, de Mallarmé notamment, et donc de gens qui réfléchissaient sur le sens des mots, qui essayaient de trouver un sens symbolique aux mots. Et finalement, Claudel a trouvé la réponse. La réponse, elle est dans le christianisme, elle est justement dans ce symbolisme avec un S majuscule, ce symbolisme absolu qui est celui de la présence réelle. Donc, Claudel, avec son double héritage, si je puis dire, symboliste et catholique, va lire la Bible comme le poème parfait. Je cite « Mais après tout, qu'est-ce que la Bible sinon un immense poème ?» La Bible lui apparaît comme l'accomplissement du rêve mallarméen du livre, le livre absolu, la vérité mise en mots. Et vous avez cette formule absolument admirable, je cite, « Pas seulement la beauté, mais ce que j'appelle l'arrière-beauté, cette substance de la beauté qui est le sens. » Pas seulement la beauté, mais ce que j'appelle l'arrière-beauté, cette substance de la beauté qui est le sens. Alors à partir de là, nous retrouvons le poète, et le poète qui tombe en arrêt devant la beauté du texte de la Vulgate. Le poète, l'amoureux du bel objet intellectuel, hein, et l'amoureux du beau mot. Il arrive très souvent que Claudel s'arrête sur un mot de la Vulgate, qu'il le note parce que ce mot lui paraît tellement admirable qu'il est hors de question de le traduire en une autre langue. Exemple, c'est dans l'introduction à Paul Claudel répond les psaumes, devant un mot comme « advesperachit », mon français se dérobe sous moi. Alors cet advesperachit, il est tiré de Saint Luc 24-29, c'est précisément la péricope des pèlerins d'Emmaüs. « Mane nobiscum quoniam advesperachit ». Les pèlerins d'Emmaüs disent au Christ « Reste avec nous parce qu'il commence à se faire tard, parce que le crépuscule tombe, et inclinata estiam dies, et le jour va se terminer ». C'est ce latin inouï de la Vulgate, ce sont ces mots que le poète admire profondément et qu'il voudrait bien imiter. Alors ce processus d'imitation, il existe véritablement. Et d'une certaine manière, le latin de la Vulgate, la beauté du latin de la Vulgate, va déteindre sur l'écriture de Claudel. D'où ces effets d'écriture que certains prennent pour du pédantisme, pour des latinismes un peu malvenus, mais qui ont une autre origine, vous le comprenez tout de suite. C'est ainsi que lorsque, dans le commentaire du Cantique des Cantiques, Claudel, au lieu de parler des réveils de la fiancée, parle de ses expergescences, c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est un mot qu'il fabrique à partir du latin expergiscor, qui veut dire effectivement s'éveiller et se réveiller. C'est le mot qui est utilisé dans le Cantique des Cantiques. Claudel choisit cette somptuosité étrange du terme latin parce que le mot lui paraît beaucoup plus beau. Et ce n'est pas du pédantisme, c'est pas pour glisser un mot savant dans un texte, c'est justement parce que ce mot est biblique, parce qu'il est une espèce, si vous voulez, de présence biblique à l'intérieur de son propre commentaire. Alors, à part ça, on a des effets de langage un petit peu curieux. Claudel imprégné de cette vulgate, hein, une certaine propension au latinisme qui s'immisce véritablement dans son écriture. Là, il s'amuse un petit peu. Vous avez des phrases du genre « L'impétus du fleuve laitifie la cité ». C'est le « Fluminis impetus laetificat civitatem Dei » qui devient une espèce de sabir, de mélange de latin et de français qui était, dont il est assez coutumier. Ailleurs, il s'extasie devant les solécismes de la Vulgate. Il tombe dans le prophète Amos sur cette expression, Amos 5,99, « Qui subridet vastitatem ». Commentaire, la Vulgate emploie une expression étonnante. Au verbe « sourire », « subridere », elle attache un accusatif. Dieu sourit, il sourit la dévastation. Donc vous voyez comment la réflexion sur le langage est en même temps articulée à une réflexion sur le pouvoir de Dieu et le retour, en fait, le retour de Dieu et le jugement. Effet de mimétisme qui reviennent constamment sous sa plume, je ne vous citerai pas tous les exemples parce qu'on en aurait, on y passerait la nuit, la chair inconsutile. La chair inconsutile, c'est le inconsutilis, la tunique sans couture du Christ, hein, qui vient se greffer à l'intérieur d'une phrase de Claudel. Des perspectives qui permaneront. Le verbe permaner n'existe pas dans le dictionnaire en français, c'est le permanere latin, là encore, qui passe très directement et très naturellement. Donc, vous voyez comment il y a une espèce d'infusion immédiate, si vous voulez, du texte biblique qui se glisse au niveau du mot, hein, au niveau du terme, véritablement, du syntagme, à l'intérieur de l'écriture du poète. Alors, je vais maintenant étendre un petit peu le propos, non pas seulement à l'usage du mot, mais à des structures plus vastes. D'emblée, la Bible a été pour Claudel un modèle stylistique. Il n'a pas attendu d'avoir travaillé ses commentaires bibliques, donc à partir de 1927, mais déjà, elle était une lecture tout à fait familière pour lui, et d'emblée, elle a été un modèle. Je vais vous lire pour cela un texte bien intéressant qui est extrait d'une lettre à Suarez. La correspondance avec Suarez est extrêmement intéressante, à la fois pour des raisons spirituelles. Claudel a essayé de convertir ce juif non pratiquant qui était Suarez, mais également pour des questions de poétique. Enfin, ils s'entendent admirablement sur des questions de renouvellement du langage. Et là, vous allez voir comment la Bible, mais pas la Bible conçue d'une manière linéaire, mais la Bible lue d'une manière liturgique, lue à travers la liturgie quotidienne et à travers le bréviaire, est le modèle poétique par excellence pour Claudel. C'est donc une lettre qui date du 9 février 1908, écrite depuis Tianjin, écrite de Chine à André Suarez. Elle est un petit peu longue, mais je crois que ça vaut la peine d'être lue en entier. Vous me demandez ce que je pense du bréviaire. À mon avis, c'est là une question absolument différente de celle de la séquence, qui n'est qu'une forme de poème comme un autre. À mon avis, l'essence de l'office divin, c'est la forme alternée. Il n'y a pas de personnage. C'est l'homme absolu, hors de toute... À mon avis, c'est là une question à lui-même. De plein pied, les deux rangs de moines, l'un en face de l'autre, échangent les questions et les réponses, en qui l'Esprit de Dieu a condensé une fois pour toutes toute parole humaine, où se reprennent d'une bouche à l'autre les strophes d'un hymne. De temps en temps, ils font silence pour écouter une lecture ou une oraison, et alors intervient la partie la plus émouvante de l'office, l'antienne et le répond. Avec les modulations d'un chant de pasteur, l'homme et un frère se hèlent, s'interpellent à travers l'immensité. Ils jubilent. Il y a là-dessus un texte admirable de saint Augustin. « Pauvre païen, qu'y a-t-il pour vous là-dedans? Le païen est seul, car sans un père il n'y a point de frère, et sans la joie, où sera la jubilation ?» Ce n'est pas tout. Chaque office n'est pas isolé. Il fait partie du cycle ininterrompu de l'année. Ce n'est pas un poème, c'est un office, un devoir, suscité par telle position du soleil, des corps et des âmes. Il s'agit du seul drame humain, celui de la chute et de la rédemption, la passion de l'homme, comme disait Mallarmé, substituée à cette peinture des passions que nous donnent les dramaturges. Depuis l'attente des prophètes, depuis la naissance du Sauveur, son agonie, sa mort, sa résurrection, jusqu'au déploiement du triomphe des saints à travers les âges de l'Église, jusqu'aux assises de la dédicace et du jugement dans ce mystérieux mois de novembre où eut lieu le déluge suivant la tradition, c'est une marche, une pompe ininterrompue, c'est une exposition sublime de toute la personne humaine. Comme la nature toute seule paraît fade à côté, combien nos petites passions paraissent mesquines et insignifiantes, et combien le général des classiques lui-même paraît pauvre à côté de ce drame absolu. Quel détriment a subi l'esprit humain le jour où il a perdu Dieu? Quel sens, quelle goutte et quelle beauté peut-il y avoir dans la vie du moment où le soleil en est absent? Pardonnez-moi de me laisser ainsi emporter, mais je ne puis parler sans enthousiasme de ce magnifique cérémonial de l'Église dont pendant 7 ans je me suis pénétrée à Notre-Dame. Il faut que la beauté en soit bien grande pour que vous en soupçonniez quelque chose dans les affreuses ténèbres de votre paganisme, pareil à ces hommes que Catherine Emmerich voyait nus autour de l'Église, ne vivant que de ses parfums et n'osant aller plus loin. Malheureux, que n'entrez-vous et ne prenez-vous votre part de cet immense trésor de joie et de beauté. Je vous serre affectueusement la main. Bien. Bon, c'est un texte admirable et pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que là apparaît véritablement à quel point l'office liturgique est le modèle stylistique de Claudel. Modèle stylistique non seulement parce que Claudel a écrit des poèmes sous forme de séquences, etc., mais pour des raisons beaucoup plus profondes. Le fameux verset claudelien, il n'aimait pas d'ailleurs qu'on parle de verset, parce que le terme est impropre, mais cette forme, si vous voulez, du drame claudelien, qui est toujours la même, hein, qui se constitue de phrases assez longues, isolées les unes des autres, eh bien, il est tout à fait évident que cela vient du dialogue de l'office. Les personnages se répondent exactement comme les moines se répondent au cœur, ou comme on se répond lors de l'office des heures. Bon, de même, ces dialogues stichométiques, la stichométie, c'est les effets justement de répliques très brèves que l'on trouve fréquemment aux moments les plus dramatiques justement des œuvres de Claudel. Eh bien, c'est ce rythme-là, c'est ce rythme de répond, si vous voulez, où un personnage reprend la pensée de l'autre et lui répond en pénétrant dans sa pensée et en allant plus loin. Et tout cela se fait aussi sous le regard de Dieu. Il est tout à fait évident que le modèle de l'office des moines qui se répondent à verset de psaume l'un à l'autre est absolument sous-jacent à cela. Ça, c'est la première chose, donc question de rythme. Deuxième question, le choix d'un genre littéraire. Refus de la psychologie, refus du roman. Claudel avait horreur du roman, parce que justement, c'est de la psychologie humaine qui se regarde elle-même, qui s'observe elle-même, sans regard extérieur et sans regard supérieur. D'où choix du drame. Et du drame, de ce drame architectural, je reviens à cette expression absolument fondatrice, ce drame qui doit être conçu sur le modèle de l'histoire sainte. De même que la Bible est le verbe absolu, de même, l'histoire sainte est le drame absolu. Et tout drame bien conçu doit s'articuler au drame de l'histoire sainte, doit en être un reflet ou une participation d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'est la clé des affections humaines, c'est là qu'est la clé des relations humaines véritables. Les situations les plus hautes sont là, et c'est là qu'il y a le modèle de toute situation sacrificielle, les héroïnes de Claudel, les Violaines, les Cygnes, les Prouesses, toutes ces héroïnes sacrificielles se rattachent bien évidemment au sacrifice par excellence. Bon. De même, toute conquête intérieure, que ce soit celle de Rodrigue, que ce soit celle de Christophe Colomb, est une conquête des âmes et se rattache par là à un modèle spirituel. Donc voilà pour ce qui est des structures et des genres. Parlons un petit peu des images maintenant. Il n'est que de lire une ou deux pages de Claudel pour voir à quel point les images, c'est des comparaisons d'une double source. Bon, la source virgilienne est évidente et je ne m'y étendrai pas. Claudel connaissait bien Virgile, peut-être pas aussi bien que la Bible, mais il le connaissait très bien. Et vous avez ces grandes comparaisons de Claudel, comme le lion, comme, etc., avec la suite de la comparaison plusieurs lignes plus loin, qui vient du modèle virgilien, sans aucun doute. Il a utilisé ça très fréquemment dans ses premiers drames. Je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Je prendrai plutôt les images bibliques. On peut prendre un passage quasiment au hasard, je ne ferai pas le pari, mais enfin, je suis à peu près sûre qu'en ouvrant Claudel à peu près au hasard, on est sûr de trouver au moins une image biblique dans une page. Alors j'en prendrai un exemple, il est pris dans Partage de Midi, j'ai choisi la pièce la plus profane pour vous montrer que les images spirituelles sont présentes là également. Et je vais vous citer un tout petit passage et vous verrez l'interaction des images qui viennent du registre profane et des images qui viennent du registre biblique. C'est à l'acte 2 de Partage de Midi, je cite... Tu es radieuse et splendide, tu es belle comme le jeune Apollon, tu es droite comme une colonne, tu es claire comme le soleil levant, tu es fraîche comme une rose sous la rosée, tu es comme l'arbre cassis et comme une fleur sentante, et tu es comme un faisan et comme l'aurore, et comme la mer verte au matin, pareil à un grand acacia en fleurs, et comme un paon dans le paradis. Donc, étonnante imbrication d'images bibliques et profanes, je prendrai seulement les bibliques ici, les profanes, bon, le jeune Apollon, on les voit tout de suite. Tu es droite comme une colonne, ça rappelle le Cantique des Cantiques, Crura Helios columnae marmorei, ses jambes sont comme une colonne de marbre. L'image de la rose et de la rosée, elle est extrêmement fréquente dans l'Ecclésiastique. La cassie, hein, qui est une forme d'acacia, l'arbre cassie, se trouve dans le psaume 44. L'aurore, c'est un souvenir du Cantique 6-9, quasi a aurora cum surgens, comme l'aurore qui surgit. Et la tonalité d'ensemble de la. des quelques phrases que je vous ai citées rappelle tout à fait un texte qui sert d'épître à plusieurs fêtes mariales. C'est celui qu'on appelle la mère du bel amour, Ecclésiastique 24, 17, etc. Sicut cinnamomum et balsamum, quasi mura electa, etc. Comme la cinnamome et le baume, comme une myrrhe. On a tout à fait ce mouvement, non seulement dans le rythme du texte, mais également dans le choix des images. Donc, il est évident qu'ici, les images bibliques ont une fonction décorative, hein, mais en même temps, elles introduisent à l'intérieur du texte ce sublime très particulier qui est le sublime du texte biblique. Bon, dans le soulier de satin, on trouverait de très nombreuses et très belles insertions de ce genre, étroitement mêlées à un lexique théologique, qui est évidemment beaucoup plus fréquent dans le soulier de satin que dans Partage de Midi. Et le contact des deux, le contact de ce qui est admirable dans la langue de Claudel, justement, c'est cette espèce de présence concomitante de quelque chose d'extrêmement concret, de ces images fulgurantes, avec bon, des effets de sonorité, un pan du paradis, enfin avec l'effet d'allitération, etc., et en même temps d'un registre abstrait. Claudel aime beaucoup les mots abstraits. Il y a ces longs mots latins, ces longs mots abstraits qui donnent du poids à son texte. Et la rencontre des deux est quelque chose d'assez étonnant, effectivement d'assez nouveau. Enfin, dans l'esthétique littéraire, je ne connais pas d'autres exemples, si vous voulez, de cette espèce de mariage du concret et de l'abstrait, de la métaphore et du langage abstrait. Alors, on peut dire, au terme de cette réflexion, que la fonction des commentaires bibliques a été finalement, il faut tout reprendre en quelque sorte a posteriori, à la fin de l'itinéraire claudélien, la fonction de la réflexion sur la Bible aura été de donner une fonction dans l'absolu à cette imitation qui au départ était en quelque sorte naturelle, était en quelque sorte un réflexe finalement du lecteur de la Bible. Et la fonction de la réflexion sur la Bible est de situer le langage du poète dans une perspective analogique par rapport au langage absolu, dans une perspective donc de participation. Et j'aimerais souligner ici à quel point cette position de Claudel est une position humble, et en particulier dans le contexte littéraire qui est le sien. Position humble qui est aux antipodes de la conception romantique du poète mage, et qui est également aux antipodes de la conception moderne de l'autonomie du langage poétique. Je pense à Bonnefoy, par exemple, hein, cette espèce d'autonomie absolue du langage poétique. Pour Claudel, il n'y a pas d'autonomie du langage poétique. Hein, le langage poétique est absolument articulé, ordonné, pour prendre un terme théologique, hein, au langage absolu. Hein, il se situe à sa place. Et même si le poète peut se permettre un certain nombre de fantaisies qui relèvent d'un don particulier qui lui a été donné, d'un charisme, Claudel considère cela comme un charisme, il le prend humblement comme cela, le poète n'a pas pour ambition d'atteindre l'absolu ou la vérité, il sait très bien que ça n'est pas dans ses moyens, mais son don est un don particulier, justement une gratia gratis data, ordonnée à la maîtrise souveraine du Verbe de Dieu. J'aimerais pour conclure souligner la cohérence de l'itinéraire claudélien, et vous voyez que j'ai parlé au début de cette double vocation, à la fois vocation du catholique pratiquant, comme on dit, et du poète. On peut dire que c'est ce qui a fait son originalité, sa profondeur, son isolement et peut-être sa souffrance aussi. Claudel est un homme qui a trop aimé les images pour s'en détourner au profit d'une vocation plus aride. C'est peut-être cela qui est au cœur du nom qui lui a été dit ou qu'il a ressenti à Dubuget. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il est évident qu'il avait chez lui cette espèce de propension au concret qui était trop forte et qui a été vraisemblablement l'obstacle à une vocation monastique ou sacerdotale. Mais d'un autre côté, Claudel a fondé les images théologiquement d'une manière trop sûre pour être compris du grand public et des milieux littéraires. Et c'est pour ça qu'il a toujours été entre les deux, incompris des milieux ecclésiastiques qui lui reprochaient sa fantaisie, tout ce côté un peu farfelu de son écriture, et étranger également aux milieux littéraires qui le traitaient de cagot. Enfin, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et de cette manière, l'incursion dans le domaine de l'écriture sainte peut être perçue comme un jardin secret, le lieu de la vie intérieure la plus intime, à la fois quotidienne et concrète. Et j'espère avoir contribué par là à le débarrasser un peu de l'image encombrante qu'il traîne de lui-même, cette image d'un homme qui s'ouvrait difficilement au monde extérieur. Mais cette image, finalement, c'est aussi une carapace dont il se défendait contre les intrusions du monde, et cela, j'en suis intimement persuadée. Et je finirai sur une citation de Romain Rolland qui le connaissait bien et qui disait de Claudel cette phrase que je trouve émouvante et juste. Je cite « Il n'est pas simple, il assemble en lui bien des hommes, mais le meilleur, le plus profond, me paraît d'une sincérité de vie en Dieu, en Jésus-Christ, humble et passionné, qui, joint à son génial pouvoir de poète, est unique en notre temps. » Merci.
admirez, comme toujours, à tout faire veuille. J'ai envie de vous poser une question qui est un tout petit peu propre à l'enseignant que j'essaie d'être. Est-ce qu'il vous est possible de dire ce que vous venez de dire en Sorbonne où vous êtes professeur? Est-ce que vos étudiants peuvent comprendre véritablement la richesse que vous venez de nous montrer chez Claudel?
Je répondrai de deux manières. Est-ce que j'oserais le dire, non? Est-ce que je pourrais le dire? Est-ce que ça serait reçu? Là, la question se pose de trois façons. Je le ferai à mon séminaire de maîtrise doctorat, parce que c'est l'endroit où je suis le plus libre, si vous voulez. J'ai fait un séminaire qui, depuis 3 ans, est intitulé « Poésie et théologie ». Un jour, un collègue m'a fait remarquer que j'étais audacieuse d'intituler de cette façon un séminaire en Sorbonne. Je veux dire que je n'avais même pas réfléchi à la question et que, apparemment, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Donc, je continue et je persiste et j'ai des étudiants. Est-ce que ce message leur est accessible? Évidemment, ils n'ont pas en général les connaissances ni bibliques, ni religieuses, ni théologiques nécessaires. Et j'ai affaire à des étudiants complètement hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y en a certains, il y a ceux qui viennent de chez vous, qui ont des tas de moyens de comprendre, et alors il y en a pour qui c'est une table rase absolue. Plus rarement quand ils arrivent en maîtrise et en DEA tout de même, parce qu'on a un petit peu débroussaillé le terrain auparavant. Mais là, il faut les mettre sur des pistes. Bon, moi je leur ai bien dit, un séminaire qui s'intitule Poésie et théologie, ça implique qu'ils aient lu du saint Thomas d'Aquin. C'est pas une lecture facile. On leur indique l'édition de la Revue des Jeunes, et puis on leur dit, bon, balancez-vous là-dedans. Et ma surprise a été qu'ils l'ont fait. Ils n'ont pas lu toute la somme théologique, mais enfin, ils ont lu les passages que je leur ai dit de lire, et apparemment avec intérêt. Et là, il y a, je crois que ça correspond tout à fait à un besoin de cette génération, incontestablement. Alors, ceci dit, je pourrais plus difficilement tenir ces propos à l'intérieur d'un cours de licence ou à l'intérieur d'un cours de première ou de seconde année. Bon, qui d'abord serait soumis à un programme précis, et alors là, l'ignorance de la part des étudiants moyens en matière religieuse est quelque chose de tellement effarant qu'il ne serait absolument pas question, si vous voulez. Bon, tout est à leur expliquer. La Trinité, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience, on en fait l'expérience sur les textes les plus profanes. J'ai eu au programme une année le Don Juan de Molière. Bon, il y a un soubassement théologique évident dans le Don Juan de Molière. Mais là, si vous voulez, ils sont tellement étrangers à tout qu'il faut absolument réexpliquer le béaba. Alors là, bon, on est loin, effectivement, des questions de réflexion sur le langage, le verbe, etc.
C'est une question. Une chose m'a étonné, vous disiez que Claudel fréquentait la Vulgate. Il n'aimait pas beaucoup Grandpont, ni Marie-Dessous. Il ne fréquente pas le maître de Sacy, par exemple.
Si, le maître de Sacy, si. Ça, effectivement, j'ai négligé de le dire, mais parmi les traductions, c'est celle qu'il utilise.
Fillon, d'ailleurs, reprend la traduction de maître.
Oui, oui. Quand il a un doute, à vrai dire, il se moque un petit peu des doutes qu'il peut avoir. Il traduit de sa façon souvent très fantaisiste. Hein. Il faut bien dire, mais ça ne le gêne pas et il le justifie d'une certaine façon. Mais quand il cite une traduction française, ou bien il l'a fait lui-même, ou bien il cite Fillon ou le maître de Sacy.
Excusez-moi, vous avez parlé de la conversion de Claudel. Avant de sa conversion, vous avez touché un peu certaines influences. Comment est-ce que vous aurez pu placer Claudel moralement, religieusement, spirituellement, quels étaient avant sa conversion? Il était catholique.
Au sein, il était catholique, il venait d'une famille catholique, d'une famille de petits fonctionnaires. Bon, il avait fait sa première communion, je dirais presque comme tout le monde, mais il a été très pris dans le milieu ambiant, qui était un milieu très positiviste. En fait, les études à l'époque, il mentionne ses études au lycée Louis-le-Grand, sa conversion s'est produite justement quand il sortait de Louis-le-Grand. Auguste Comte et Renan étaient les maîtres à penser. D'ailleurs, il a gardé une haine absolument mortelle contre Renan jusqu'à la fin de ses jours, à cause de cette influence dont il était totalement imprégné. Schopenhauer aussi, à travers, il avait comme professeur de philosophie Burdeau, qui était le traducteur de Schopenhauer. Donc le message schopenhauerien est passé directement. Et Claudel n'y a fait aucune résistance. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il utilise le terme de conversion, qui est un petit peu impropre, puisque ce n'est pas une conversion à partir du paganisme ou d'une autre religion. Mais il considère que c'est une véritable conversion par rapport au milieu intellectuel dans lequel il se trouvait.
Il y a un certain temps que nous avons découvert. claudelienne et augustinienne, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et qui m'a permis de mieux vous connaître, d'approfondir et d'apprécier votre conférence du jour. Évidemment, le Claudel, c'est un monde, n'est-ce pas, quand on l'aborde. Et je crois qu'il est plus. Je vais mettre un rapport Claudel avec Augustin Saint-Bernard. C'est un mystique, si j'ose dire. Je vois beaucoup de parenté entre Claudel et Augustin qu'avec Jérôme, par exemple. Je ne sais pas s'il a parlé beaucoup de Jérôme.
Comme écrivain de la Vulgate, oui, le moteur de la Vulgate, bien sûr. Mais,
je veux dire, comme de la.
De point de vue de sensibilité, certainement, oui. Certainement.
Alors, évidemment, on peut aborder la Bible, évidemment, dans l'aspect mystique, en lecteur, n'est-ce pas, du quotidien, en théologien, bien sûr. Un théologien doit prendre ses thèses théologiques et dire à qui il sert la Trinité, l'incarnation. Il le lit, intelligemment et spirituellement, mais enfin, alors, évidemment, la fonction est différente, je dirais. De même qu'un exégète, il est obligé de prendre les livres au point de vue, disons, historique, etc., d'appuyer comment les livres. Alors, Claudel en veut un peu à notre ami le Père Lagrange, enfin, disons. Mais le Père Lagrange avait une fonction, évidemment, il se venait au moment après le rationalisme, n'est-ce pas, la fonction du Père Lagrange. L'Église avait besoin d'exégètes, n'est-ce pas, du type du Père Lagrange et d'autres, et qu'on en a encore besoin. En fonction, alors bon, chacun sa fonction, si j'ose dire un peu. Mais alors, il est sûr que Claudel donne une pénétration de l'écriture, une lecture, une pénétration de l'écriture. Je le vois très bien, n'est-ce pas, dans un monastère, Claudel. N'est-ce pas comme je crois que la clé de saisie a été la liturgie.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Pas, la clé de saisie de la Bible a été la liturgie de l'Église, disons.
Ah oui.
La lecture. En gros, enfin disons, même en gros, non. Alors, il y a allusion tout à l'heure, même un moine, n'est-ce pas, c'est évident quand on lit la Bible, dans nos prières, il y a une autre résonance que si je la lis en théologie, j'en tire d'autres arguments, vous voyez. Si je la lis dans mon prière, je laisse aller à la prière, je suis emporté par les psaumes, etc., je le fais intérieurement même, pas un commentaire, c'est rituel, tandis que si je fais un cours de théologie, je dirais, je lis un peu la Bible un peu différemment, voyez-vous.
Oui, oui.
Un point d'aspect différent. Mais enfin, j'avoue que la lecture de Claudel nous apporte beaucoup, indéniablement, pour à la suite des vers, de la tradition qui continue.
Absolument, tout à fait. Tout à fait.
Maintenant, alors, une question que je voudrais poser quand même. Il a des livres préférés de l'écriture.
Ah oui, tout à fait. Alors, les deutérocanoniques, comme par hasard. C'est-à-dire que. Oui.
Il est
fleuri,
je ne sais pas
si il est intéressé quand même dans le texte qui s'appelle Emmaüs, justement, où il reprend tous les livres historiques, où il les interprète dans une perspective christique. Bon, c'est sûr que ce qui l'intéresse le plus, c'est les textes qui peuvent être utilisés dans une perspective mariale, le Cantique, Judith, Esther, enfin, tous ces textes-là, et les prophètes. Les prophètes qui sont vraiment son point d'appui.
Et puis alors, oui. Est-ce qu'il parle beaucoup des épîtres de Saint Paul?
Il les mentionne souvent. Il les cite très souvent, mais de façon fragmentaire, disons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaire systématique des épîtres. Bon, puis alors il y a un texte qui l'a absolument passionné, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, qui est le premier sur lequel il a travaillé et le dernier de la Bible, qui est celui, justement, pour toujours dans la même perspective des images, parce que l'Apocalypse, c'est le texte dont les images ne sont pas ouvertes. C'est le texte dont les images nous sont encore complètement inconnues, puisque ça parle de l'avenir, ça parle de ce qui ne s'est pas encore produit. Ce n'est pas l'histoire d'Israël, ça n'est pas la vie du Christ, c'est des images à l'état pur. Et ça le fascine absolument. Et ça lui donne la clé de tout le reste, d'une certaine manière, cette clé de lecture des images comme symbole à l'état pur. Oui, à propos de Saint-Augustin, là, il y a une petite colle que je n'ai pas résolue dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. Il jubile, il y a là-dessus un texte admirable de Saint-Augustin. Bon, je n'ai pas eu le courage d'aller chercher, mais enfin, là, il y a une référence augustinienne. Pour ce qui est de la vocation monastique, c'est sûr que si vocation il y avait, c'était sans doute plus une vocation monastique que sacerdotale. Et ce n'est pas un hasard si c'est à Ligugé que ça s'est fait. Ça correspond d'ailleurs à une sorte de mouvement d'époque, c'était dans l'air du temps. Ça. Pratiquement tous ces littérateurs qui croyaient plus ou moins avoir une vocation religieuse, c'était beaucoup plus souvent carrément une vocation monastique. Enfin, ils se retrouvaient, négligés, où il y avait des glissements, se retrouvaient là-bas au même moment. Enfin, c'est...
On n'a pas beaucoup lu de Claudel, qu'est-ce que vous conseilleriez à lire en premier?
Ah. Difficile.
Oui. C'est spécial, c'est des cartes. Mais comment un peu. Qui demain un résumé de tout ce que vous nous avez dit.
Alors là, il faudrait lire celui qui s'appelle J'aime la Bible. J'aime la Bible. Vous aurez du mal à le trouver, madame, parce que malheureusement, ce sont les textes qui sont épuisés. Maintenant, on peut les trouver dans la petite collection Blanche Gallimard, vous savez, les petits livres là blancs chez Gallimard. Mais ils sont épuisés, donc vous ne les trouverez que sur les quais ou. Bon, ou alors dans les œuvres complètes de Claudel, là, également chez Gallimard, c'est le tome 21, mais ça c'est épuisé aussi. Bon, ceci dit, nous faisons une réédition. Donc si vous avez un peu de patience, nous sommes trois à travailler sur une réédition de ces textes, parce qu'ils sont d'abord fautifs là-dedans et que par ailleurs, ils ont besoin d'un commentaire. Ces textes sont devenus difficiles pour le lecteur d'aujourd'hui. Donc c'est également Gallimard qui fait cela dans une édition qui ressemble à la Pléiade, qui s'appelle Mercure en fait. C'est une édition sur papier Bible. Alors si nous sommes actifs, normalement on devrait pouvoir en sortir un tome l'année prochaine.
Parce qu'un éditeur vous dit qu'est-ce que vous voulez, Claudel ?
Ben oui, mais vous trouverez ça en bibliothèque. Dans une bibliothèque, vous devriez le trouver. Même une bibliothèque d'arrondissement, je pense qu'ils doivent avoir les œuvres complètes.
On peut pas quelquefois se jeter de but en blanc, n'en est pas beaucoup lu.
Bien sûr. Sinon, je crois que dans le théâtre, ce qu'il y a de plus accessible, c'est l'Annonce faite à Marie, qui était d'ailleurs la pièce préférée de Claudel. Enfin, il aimait beaucoup l'Annonce faite à Marie, qui est un très beau texte. Et il faut lire Partage de midi et Le soulier de Satin, mais il faut lire les deux. C'est-à-dire que ces deux textes indissociables et vraiment... il ne faut pas lire Partage de midi tout seul. Je crois qu'il faut vraiment le lire avec Le soulier de Satin, qui n'est pas d'une lecture très facile, mais qui est d'une lecture admirable et qui peut se lire par fragments aussi. Enfin, ça peut tout à fait se lire par morceaux. On peut lire une journée tout à fait indépendamment des autres. Ceci dit, vous avez également dans la Pléiade un volume d'œuvres en prose de Claudel, alors qui sont très peu connues. Vous avez tout un gros tome de la Pléiade, et c'est loin de rassembler toute la prose de Claudel, qui a énormément d'écrit. Et là, vous avez des textes, sa prose est magnifique. Enfin, la langue de Claudel est tout aussi belle dans sa prose que dans son théâtre. Vous avez des textes, vous avez l'introduction à la peinture hollandaise, donc une réflexion sur des tableaux hollandais qui sont magnifiques. Vous avez un texte sur les vitraux de Chartres qui est admirable également. Il a écrit vraiment sur toutes sortes de sujets qu'il passionnait et tous ces textes valent absolument la peine. Sinon, vous avez un petit volume alors pour vous familiariser avec lui qui est intéressant. C'est une espèce de biographie sous forme de dialogue. Ce sont des entretiens radiophoniques au départ dans lesquels Jean Amrouche avait interrogé Claudel l'année précédant sa mort en 1954. Et ça s'intitule « Mémoires improvisées ». Mémoires improvisées. Et ça, c'est paru dans la petite collection de poche Idées Gallimard. Ça doit être disponible. Ça, je pense qu'on le trouve sans problème. Mémoires improvisées. Et ça, c'est une bonne introduction, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de citations. Et Amrouche interroge Claudel sur toutes sortes de sujets. C'est très divers et ça se lit très facilement. Gallimard, Idées. Bon, puis il y a sa correspondance. Si vous tombez sur ce volume de... Bon, ça encore, c'est épuisé. Correspondance Claudel Suarez, c'est très révélateur et très intéressant. Enfin, c'est pas une correspondance anecdotique. Il y a vraiment des questions de fond qui sont abordées constamment. Et en plus, ils ne perdent pas leur style d'écrivain quand ils...
Dans sa vie, il y a des périodes plus fortes de lecture. Dans son livre.
De lecture de l'écriture, de la Bible. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela, parce que... Bon, sauf quand il s'attaque à un texte en particulier, là, évidemment, il se met à le relire de façon linéaire, donc plutôt dans la dernière...
Toute sa vie, il a lu la Bible également.
Ah, je crois qu'il lisait le bréviaire, de toute façon. Donc, comme il lisait le bréviaire, de toute façon, il s'attaque...
Il y a eu des périodes où il a lâché, non ?
Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il y a des paradoxes dans la vie de Claudel. Enfin, tout de même, la période passionnelle de Claudel entre 1901 et 1904, la fameuse période d'Isée, c'est celle où il a lu la Somme théologique. Alors, les bras peuvent vous en tomber, mais c'est quand même comme ça. Il y avait cette espèce de je dirais pas de double vie, mais enfin de il était à la fois livré à la passion et à la théologie, c'est comme ça. Et bon, la lecture du bréviaire, je ne sais pas quand il l'a commencé, ça je ne pourrais pas vous dire, mais enfin apparemment, c'était déjà en 1908, lors de la lettre à Suarez, c'était tout à fait Je crois que, en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé après sa conversion. C'était des conseils de confesseurs. Hein, c'était des conseils de directeurs spirituels. C'est un confesseur, un des premiers qui l'a tué d'ailleurs. Sa première confession n'a pas eu lieu tout de suite. Il y a eu un raté. Il y a eu une première confession qui s'est mal passée. Et ensuite, il y en a eu une autre 4 ans après la conversion, à Saint-Médard. Il est toujours resté extrêmement reconnaissant à l'abbé qu'il avait confessé à cette époque-là et qui lui a conseillé, de but en blanc, ça c'était dans la logique de l'encyclique Eterni Patris, de lire les deux. Il avait vu à qui il avait affaire, évidemment, c'était pas le premier venu. Il avait vu qu'il en était intellectuellement capable et le confesseur lui a dit d'emblée, eh bien, vous partez en Chine, emportez les deux sommes de Saint-Thomas, la somme théologique et la somme contre les gentils. Claudel, obéissant, s'est procuré les deux et parti avec ça sous le bras et les a lus.
Et qui était le directeur, j'ai directeur pour Psychiatrie, on sait que le pacte d'Irissac a eu une influence déterminante pour Baritain aussi.
Il y a eu l'abbé Baudrillard, très important. Ah, voilà. Ah, oui. Après, ça a été même le plus important parce que c'était celui de la suite de Partage du Midi, etc. Oui. Ça a été vraiment celui qui a remis les choses en place de façon efficace, sévère et d'une manière que Claudel a apprécié. Donc il y avait le problème de l'éloignement, comme il le dit, il était presque toujours à l'étranger, et il dit d'une manière amusante dans un texte que les confessions étaient souvent des dialogues de sourds, parce que d'abord il y a le problème de la langue qui se posait, puis lui-même est devenu sourd au sens propre assez rapidement, donc... Mais il y a cet abbé Vuillaume là qui a été le premier, et puis Monseigneur Baudrillard, ensuite, qui ont été vraiment des confesseurs... Il y a eu l'abbé Fontaine aussi... Le père Clérissac, je ne crois pas qu'il ait jamais eu affaire à lui. C'était un autre circuit, cela. Mais non, je crois que c'est ces trois noms-là qu'on peut mentionner, qui sont les plus sûrs. Mais alors, donc, il a eu ce conseil de lire les sommes théologiques et la lecture du bréviaire. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui en a eu l'initiative. C'était un bréviaire monastique, d'ailleurs, qu'il avait. Je ne sais pas si c'était un reste de cette vocation monastique. Où c'était aussi dans l'air du temps, parce que Suarez le lisait aussi, pas pour les mêmes raisons, mais il y avait cette espèce d'intérêt de tout le mouvement symboliste pour tout ce qui est liturgique, ça c'est sûr. Alors Claudel a poussé ça jusqu'à sa dernière limite, puisqu'il y avait aussi un intérêt spirituel qui était en jeu. Mais enfin, il dit bien quand même, mais ça c'est très symptomatique, que lorsqu'il est allé le jour de Noël 1886 à Notre-Dame pour les Vêpres, c'était pour se chercher, c'était en dilettante, pour se chercher un motif d'inspiration pour un poème symboliste. C'était... Et puis ça lui est tombé dessus comme la foudre. Donc,
madame.
Je ne crois pas. Je n'en ai. Le meilleur moyen, ce sera de regarder l'index du journal. Là, par chance, je l'ai, mais je n'ai pas le souvenir qu'il en parle de façon systématique. Non, oui, il n'est même pas mentionné dans l'index du journal, qui est vraiment, en principe, ce sur quoi on se précipite quand on veut savoir si Claudel a rencontré quelqu'un. Donc, je ne peux pas dire non, hein, je ne peux pas dire qu'il ne... Mais il faudrait voir, parce qu'on possède un autre instrument de travail bien utile, qui est le registre de sa bibliothèque de Brangue, où on a donc la liste de tous les livres qu'il avait entre les mains à la fin de sa vie. Alors, il faudrait voir s'il en avait dans sa bibliothèque. À ce moment-là, on est à peu près sûr qu'il en a lu. Mais... Oui, mais tout à fait.
Très bien, madame. Il nous faut vous remercier.